Ok, je crois que c'est à moi. J'étais super prêt. Ouais, j'étais super prêt. Vraiment, je m'attendais pas du tout à la fin de la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout. À part le rideau cache un peu Tintin. Ah, c'est mieux. Ah, comment ça va, vous? Heureux de vous retrouver en ce mardi matin. On lâche pas l'affaire. Hein. La semaine dernière, du lundi au vendredi, double stream tous les matins. Hein. Le matin, l'actualité. Le matin, les journaux. Le matin, la revue de presse. Et le soir, du gaming. Voilà. Et on lâche pas. Hein. Hier, double stream. Ce mardi, double stream. Et demain matin, je suis en tournage, par contre, pour France Télévisions. Et donc, il y aura que du stream le soir. Voilà. Un seul stream par jour. Et puis, jeudi matin, on reprend. Double stream. Ah, et vendredi, ben, je pars à... Vendredi matin, il y aura du stream de la matinée Étienne. Et vendredi soir, rien. Samedi matin, rien. Samedi soir, rien. Dimanche soir, ça me plaît? Non, pas ça me plaît. What? Lundi matin, rien. Non. Vendredi, samedi, dimanche et lundi matin, je suis en Espagne. Espagna! Voilà. Pour le VCT, voilà, cette grande compétition Valorant, voilà, malgré l'absence d'équipe française, puisque la K-Corp a été éliminée hier, quoi. Donc, je m'en excuse par avance, mais c'est pour de bonnes raisons. Je vais m'absenter quelques jours en fin de semaine et je pourrai stream ton périple espagnol. Non, Tilrael, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. J'y ai pensé, mais c'est pas possible pour des raisons. Qui comment dire, c'est quoi la formule consacrée pour des raisons indépendantes de ma volonté, voilà. Et en revanche, je vais vous faire une jolie petite vidéo avec Joe, enfin un truc pas un truc de 5 minutes, quoi, une vraie bonne grosse vidéo, pas logistique, Pork Venox, non, ça c'est autre chose, pour des raisons indépendantes de ma volonté. La logistique, on sait faire. Et donc, il y aura une jolie vidéo d'au moins une demi-heure, quoi. C'est un peu ce qui est prévu. Un petit reportage qu'on vous postera sur YouTube au plus tôt de la semaine suivante. Voilà. Voilà. Beaucoup de stream en ce début de semaine, un tout petit peu moins en fin de semaine, et j'en suis désolé. Et puis, ça me plaît, qui sera reporté d'une semaine, qu'on retrouvera le dimanche. La découverte de l'e-sport par Samuel Etienne, ça va être fun à regarder. À zin, zin, j'espère en tout cas. Sigurbjörn, merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Je désépingle le message que j'ai épinglé. J'aime bien être. Épinglez vos petits messages du matin. Nuno 124, merci beaucoup pour le 17e mois. Kerepoux pour le 29e mois. Vlachand pour le 11e mois. Vous régalez. Lucky pour le Prime. Ce sont les subs de la nuit. Elijah Champion. Cassé Chaussettes de Wish. Ça, c'était les abonnements hier soir, les derniers. Alors, Nico Prati 5, je pense que tu n'es pas venu depuis un petit moment sur la chaîne. C'est pour ça que tu n'as pas l'info. Si tu tapes point d'exclamation hebdo, HEBDO, tu as la réponse à ta question. J'y vais en tant que journaliste, j'y vais en tant que créateur de contenu, j'y vais en tant que streamer, j'y vais en tant que gamer, j'y vais en tant que Samuel Etienne, j'y vais en tant que gars qui est curieux et qui aime bien découvrir de nouvelles choses. C'est comme un médicament. Oh, dit Andby, mon médecin m'a prescrit un live de Samuel matin et soir pendant plusieurs semaines. C'est trop gentil. Moi, c'est Julien. Merci pour l'abonnement offert à la commu. Tu régales, je blouche. Je ne sais pas s'il est là ce matin. Je pense qu'il sera plutôt. Il est là. Je voudrais accueillir, les amis, un nouveau modérateur sur cette chaîne. Vous savez que régulièrement, avec beaucoup de gentillesse, certains viewers, vieweuses proposent de devenir modérateur. C'est une façon très importante de soutenir la chaîne. On a une magnifique équipe de modos. Voilà, avec une magnifique ambiance dans le petit fil de discussion qu'on s'est créé, sur lequel on échange quasi quotidiennement. Sugarfrog slash Anthony nous rejoint depuis hier soir. Merci d'être là ce matin. Je sais que tu seras plutôt là le soir, surtout pour le gaming. D'ailleurs, on a joué ensemble hier soir. Mais merci beaucoup de nous rejoindre. Et je sais que toute l'équipe va t'accueillir les bras ouverts. Original Pimous, merci. MMG7F, merci. Brobrosir06, merci. Julo18, merci. Anonyme31, merci. Et l'ami Nightbot, bien sûr. Merci, Anthony, de nous rejoindre. Je vous lis un petit peu parce que c'est mon bonheur. Et puis, on part pour une revue de presse intense, rythmée, puisqu'à 11h30, je dois vous laisser dans 2 heures, parce que j'ai pas moins de 4 rendez-vous de boulot. Bam! Juste après 11h30, 11h45. Réunion Teams. Midi 30,
13h. Je vais vous dire.
Moi, c'est à l'ancienne, c'est sur mon agenda. J'aime bien les agendas papier, comme ça, tu gardes. Tu peux revenir toutes les années après. Alors, attendez, je vous dis, c'est fou, quoi. Ok, 11h45, 11h30, 11h45, Teams. 13h, call. 13h30, Teams. 14h, call. Voilà. Donc, quatre gros rendez-vous de taf. Tout est lié à Twitch. Voilà. Ça prend vachement de temps, hein. On se rend pas compte. Tout ce qu'il y a à côté, en fait. Des lives, quoi, pour préparer ce qui vient. Donc, quatre rendez-vous. Tu manges à quelle heure? Bah, du coup, Assassin's Creed, c'est pas prévu. Après, petite sieste, puisque la nuit a été courte. Un peu de sport en fin de journée. Et puis une soirée gaming. Quel gaming? Suspense. On va peut-être changer un petit peu ce soir-là. Peut-être faire autre chose. Guitariste ouf, merci. Très joli pseudo. Ça aurait été mon rêve, ça, de savoir jouer de la guitare. Mais je trouve que c'est très, très dur comme apprentissage. Bravo. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Mikaz, merci pour le prime. Tu fais du sport de quoi? Je cours essentiellement. Je suis un coureur. Je cours depuis longtemps. Et, voilà, beaucoup de courses à pied, un peu de triathlon à une époque aussi. Mais voilà. Salut Toshikro. Merci beaucoup pour le soutien. Ah, je vous lis un petit peu. Tu as une armoire à agenda, du coup. J'ai une armoire à agenda, ouais. Ah, je me fais rire. Ah, j'aime vous lire, ça me met tellement bonne humeur. C'est drôle, d'ailleurs. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Anthony, c'est gentil. Marathon de 7 avril, ouais. On a le marathon de Paris de 7 avril qu'on streamera, bien sûr. Ça s'appelle la foulée Étienne et on sera en stream pour toute la durée du marathon de Paris. Ce sera un peu foufou, sachant que je n'ai plus du tout le niveau marathon. On va se régaler, notamment sur les 10 derniers kilomètres où vous allez me voir littéralement pleurer. Je n'ai pas encore vu la vidéo sur le lore de Valorant au coco, mais j'ai bien prévu de la regarder avec vous. On voit la fin de Détroit, Become Human, me dit Alexandre. Et pourquoi pas ce soir, hein? Bon, vous, ça va sinon? Bien sûr, spéciale dédicace à Eric, le maître de stage en biologie de Vinsky 8621. À l'instant, Eric, elle est pour vous, elle est pour toi. Chouquette fragile, voilà. Parfois, on a des pseudos qui vraiment. Mais ça, c'est beau, ça. Voilà, chouquette fragile, ça, c'est beau. Merci beaucoup pour le soutien. Tiens, non, j'avais peur que mon micro soit trop faible. Non, c'est bon. Il est au bon niveau. Merci, chouquette fragile. Oh, est-ce qu'on peut envoyer la force à Yali 607? Je suis malade et je regarde tes lives en vomissement. Oh, quel sas, le maire? Le dernier sas, le plus lent, le dernier, pour deux raisons. D'abord, parce que je ne suis pas du tout au top. L'objectif, ça va être vraiment de finir. Deux, parce que pour des raisons de connexion, on sera entouré de littéralement 50 000 personnes, 50 000 potentiels téléphones qui prennent de la connexion dont on a tant besoin avec Joe pour assurer le live. Ok, il y a moi, c'est Julien, Joe Bjoule, pour les intimes qui viennent l'offrir, lâcher 10 abonnements à la communauté. Julien, tu régales, merci beaucoup. Tu mérites ton statut de VIP. Et donc, en fait, en partant tout à la fin du marathon, dans le dernier sas, et même à la fin du sas, si vous voyez ce que je veux dire, ben en fait, c'est mécanique, c'est mathématique. Vous avez deux fois moins de téléphones. Parce que vous n'avez pas 20 000 téléphones derrière vous ou 20 000 téléphones devant vous. Vous n'avez que les téléphones devant vous, vous n'avez plus ceux derrière. On a expérimenté ça pour le semi-marathon de Paris. Ça nous a évité le petit cut qu'on a eu pour le 10 km des Champs-Élysées. Donc je pars dans le dernier sas. Et l'autre truc sympa, c'est que de toute façon, vu mon niveau actuellement, c'est cool de partir dans le dernier sas. Et ça me permet plutôt de remonter les gens plutôt que de me faire doubler pendant 4 heures ou 5 heures. On verra. Ça, c'est beau. Wanir qui nous dit « Bonjour Sam, en direct des toilettes de travail pour regarder le sommaire de ton live. » Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. La passion pour la formation, hein, qui vous prend dans tous les lieux possibles et imaginables. Ça, c'est la passion de l'actu, ça. Ça, c'est beau, ça. Et Joe à vélo, toujours, bien sûr. Alors, certains regardent depuis les toilettes, certains depuis le travail, comme Moonlight Fox. Je regarde ton stream pour me motiver quand je suis au travail. C'est cool, merci à toi. Mis à part le début, j'ai raté une grosse partie de ton stream hier soir. Je me suis endormi, je n'arrive pas à te suivre matin et soir, éclouf. Moi non plus, j'ai du mal, tu sais. Moi non plus, j'ai lancé tard, j'ai lancé à 22h30 hier soir parce que beaucoup de boulot, les fameux dossiers dont je vous parlais, et puis la famille, les enfants, donc j'ai lancé très très tard, genre 22h30, voilà. C'est vrai que c'était super tard. Je te regarde juste avant d'aller à la fac, tu nous régales, merci. Colx. Oh, vous êtes trop chou. What? Navi Bama. Samuel, on vient de faire un exposé sur toi, dans mon lycée. Tu vois le truc normal, quoi. Le truc. Voilà, ce matin, c'est exposé sur Samuel Etienne. Mais... merci, c'est gentil. Pas sûr que je vais être un exposé, mais c'est chou. Lemmings, bonjour Samuel, il me reste plus que 30 minutes, sinon j'aurai plus assez de gigas pour le reste de la semaine. Je pense qu'on va se pencher sur cet inflow. Oui, Ronnie Fleur de Paix, le marathon de Paris sera mon 24e marathon et le marathon des Jeux sera le 25e exactement. Tu as le bon compte et les bons comptes font les bons amis. Merci Sanjo pour le message. Force à Axel qui est sur le point d'aller réviser ses partiels. Il y a les partiels du côté de Delerat aussi. Dans les bouchons pour aller au taf, Freddy, on t'envoie de la force aussi. Bon petit neige, Lesia. Télétravail pour Ezukiel. Ça bosse, ça bosse, eh. Ça bosse, hein. Bravo, hein. Il est où mon café? Pas beaucoup dormi encore, ça. C'est fou, ces soirées de valo, là, toutes les nuits. Ouais, 24e marathon en 2024, tout était écrit. Ouais, c'est beau, hein. Ça a motivé, ça a motivé. Mais en vrai, je vais avoir besoin de vous hein, pour le marathon de Paris parce que ça a été ma passion, mais en termes de volume d'entraînement, je suis très loin de ce que je faisais à une époque. Donc jusqu'au semi, ça va le faire. À partir du 30e kilomètre, ça va être très, très, très dur. Voilà. Ça va vraiment jouer au moral. Les jambes vont vraiment être un peu limitées, quoi. Donc je compte sur vous dans le chat. C'est dans 15 jours, hein, ouais. Dans 15 jours, pour me soutenir, là, ça va être chaud, 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 chaud. Bon, les amis m'ont lancé cette revue. Ouais, j'adore mon skin fantôme. Tu seras pas là en 15 jours, MMG7F, tu seras pas là en 15 jours pour me soutenir dans le marathon de Dieu, MMG, qu'est-ce que tu fous, quoi. MMG, tu seras pas là pour me soutenir dans 15 jours au marathon de Paris, alors que vraiment, littéralement, je vais mourir, quoi. Ah, c'est chaud. Je stream dans un petit studio, les gars, à côté de chez moi. Un petit studio que depuis le mois d'avril, parce que vraiment, tout le matos, tout ça prenait vraiment trop de place à la maison. Voilà. On a trois décors de stream maintenant ici, pour les différents trucs. Et puis voilà, et pour Joe, c'était un enfer de devoir monter, démonter tout à chaque fois pour les streams importants. Donc voilà, on loue un petit local. Bon, on va faire un petit sommaire pour ceux qui n'ont pas deux heures à nous consacrer ce matin pour avoir l'essentiel de l'actualité, mais j'aime bien apprendre de vos nouvelles aussi. Entre la télé et la chaîne Twitch et ta vie de No Life sur Valorant, comment trouves-tu le temps de t'entraîner pour un marathon, demande Val. Eh bien justement, j'ai pas le temps. C'est ça le problème. C'est bien ça. C'est que une course à pied, un marathon, c'est à la portée de tout le monde, je le répète. N'importe quelle personne en bonne santé peut faire un marathon, mais easy, quoi. À condition de faire le volume d'entraînement nécessaire pour faire un marathon. C'est vraiment pas compliqué, quoi. À condition que tu n'aies pas de pépin physique particulier, quoi. À condition de faire le volume d'entraînement. Je ne le fais plus, le volume d'entraînement. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus par manque de temps. C'est ça qui va être intéressant. Mathieu 95, bonjour Samuel. N'oublie pas de graisser la poussette de stream. Ça peut éviter les couinements. C'est moi qui couine. C'est pas la poussette. Les couis, 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 couis. Pendant mes streams, là, vous entendez couis, couis, couis. C'est pas la poussette, c'est moi. C'est moi qui queen, c'est l'âge, c'est l'âge. Faut pas fumer, Diesel. Mais tu penses que je fume? En général, les coureurs à pied, ils fument pas les masses. Hein. Vous avez quel âge? J'ai 13 ans, Sanjo. J'ai 13 ans et demi. Ouais. Voilà, c'est les genoux qui queen, là, tiens, exactement. Et la hanche aussi, kiné. Et aussi la hanche. Ouais. Tu es fou, en fait. On l'est tous, Bosmu. On l'est tous un petit peu, quoi. Merci, Rixal. Vous connaissez la chanson, d'ailleurs, à ce propos merci, Rixal, pour le 7e mois d'abonnement. Alors, il faut vraiment être vieux pour avoir la ref. Ça donne... Je suis Rixal et je le reste dans la tête et dans le geste. Barzotti, Claude Barzotti, vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ça a été important à une époque. Et Sweet, ah, Original Pémousse, tu as la ref. Je suis avec ça, et je le reste. Dans le jeu. La musique est italienne. Ah, vous avez la ref. Mais vous êtes vieux. J'adore. Bass Bilbo, merci pour les beats. Et Sweet, c'est ça, et le reste. Tin, 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 tin. Je suis yeuve, me dit MMG. Vous avez la ref, c'est drôle. Vous faites plus vieux que 12 ans et demi, me dit Sanjo. Ou 13 ans et demi, je ne sais plus, je ne sais jamais quel âge précis j'ai. Eh oui, bah ouais, j'ai un peu... Je tryhard trop la vie, donc voilà, ça, je marque un peu. Mais, Hop là. Attendez, je fais un petit truc. Pour une amie. Hop. Alexandra, je follow ta chaîne, c'est fait. Et je follow ta chaîne Twitch. Allez, paix à son âme, Claude Barzotti. Ah, il est. Ok, d'accord. Ok. Il y a Filmo qui dit vous marquez la vie Samuel mais elle ne vous marque pas. Oh là là, attendez, je vais épingler ce message. Ah, voilà. On y va, Étienne, l'actu, c'est parti. Regardez-moi ça, vous marquez la vie mais elle ne vous marque pas. Pop, 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 pop. Les amis, les choses sérieuses, c'est parti, let's go. Merci d'être là, vous êtes formidables. La matinée, Étienne, tous les matins, on lit les journaux, la presse nationale, quotidienne, celle que j'aime. Voilà, c'est là où j'aime bien m'informer. J'essaie de partager ce plaisir avec vous. Je lis tous les matins Le Monde, Le Parisien, Libération, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, Le Figaro, je l'ai peut-être oublié. Et voilà. Et puis j'essaie d'en tirer la substantifique moelle, les informations dont on n'a pas parlé les jours précédents, pour un, vous tenir au courant, et deux, vous trouver les infos les meilleures possibles. Merci Wasilax pour le Prime à l'instant. Basidbo, merci pour les bits. Et on commence par un sommaire, comme ça que ceux qui n'ont pas deux heures à nous consacrer ce matin, vous avez quand même l'essentiel de l'actualité. Let's go, qu'est-ce qu'on a ce matin dans la presse? Alors d'abord, on va parler du Proche-Orient, voilà. de la guerre, voilà. De ce qui se passe entre Israël et la bande de Gaza. Vous avez été quelques-uns à me signaler depuis quelques jours qu'on parlait moins au quotidien du Proche-Orient sur cette chaîne, et pour cause. Il y a moins d'articles hein, dans la presse. Voilà. La presse écrite qui pourtant se penche sur la situation depuis les attentats du Hamas quotidiennement. Voilà. Et là, force est de constater que le conflit durant, eh bien, il se passe ce qui se passe toujours avec un conflit ou une crise. Eh bien, il y a moins d'articles. Les choses s'installent dans une forme de routine, moins d'articles, parce que aussi les gens commencent à se désintéresser. Quand je dis les gens, ce n'est pas forcément que les journalistes, mais aussi les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, en disant « Ah là là, ça se poursuit ». Donc, moi, une de mes missions, c'est de chercher les infos, quand même, sur ce sujet, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe là-bas. Et j'ai trouvé une pleine page dans Le Parisien aujourd'hui, qui est très bien faite sur ce qui se passe à Rafah et sur cette menace d'une offensive terrestre de masse de l'armée israélienne contre Rafah, là où sont réfugiés l'essentiel des Palestiniens de Gaza. Voilà. Donc là, il y a la crainte d'un nouveau, très lourd bilan humain. On se penchera sur la situation. Page 6 dans Le Parisien. L'article a le mérite de bien résumer de là où on en est aujourd'hui, notamment sur les négociations d'un éventuel cessez-le-feu, mais on est très, très loin. Ça me touche. C'est quelque chose de très, très touchant. C'est tous les ans, La Croix s'associe à une association qui s'appelle Les Morts de la Rue. Les Morts de la Rue, c'est une assoce qui, tous les ans, essaye de recenser tous les morts de la rue, les morts dans la rue, hein, les sans-domicile fixe qui meurent dans la rue en France. Donc, c'est un travail de collecte pour rendre hommage, en fait, à ces personnes qui sont mortes dans la rue. Voilà. Pour leur donner une identité. Voilà. Trouver un nom quand c'est possible, un prénom quand c'est possible, un âge quand c'est possible, un surnom quand c'est possible, et parfois on trouve pas d'infos et c'est juste une personne anonyme qui est morte là, sur le trottoir. Donc c'est quelque chose de grave, de d'éminemment triste, mais que je trouve important. Il s'agit de rendre une dignité en fait à ceux qui ont été laissés sur le bas-côté, oubliés par la société. Voilà, jusqu'au bout, jusque dans leur dernier moment. Voilà. La Croix et donc le collectif Les Morts de la Rue rendent hommage à 656 personnes sans domicile décédées depuis début 2023. C'est un bilan qui ne se veut pas exhaustif. L'association essaie de collecter les noms de tous ceux qui sont morts. 656 personnes, c'est un minimum. Hein. Il y en a sans doute plus. Quoi. Dignité, c'est le titre de l'édito d'Isabelle de Golmine dans La Croix. Il s'agit de rendre leur dignité à ces personnes. Et Libé, La Croix pardon, va au bout de la démarche puisque Libé publie les noms de ces 656 personnes. Une page. Deux pages. Trois pages. Quatre pages. Voilà. Avec parfois un prénom et un nom. Parfois juste un nom. Parfois juste un prénom, parfois juste un surnom, parfois rien, quand on n'a pas trouvé l'identité, malgré les recherches de l'association. Voilà. C'est un truc très émouvant et qui nous parle aussi de la société dans laquelle on vit, voilà. Qui fait que voilà, y a encore des gens qui meurent comme ça dans la rue, des gens très jeunes, la moyenne d'âge elle est très très jeune, vous verrez. Il y a très très peu de personnes au-delà de 60 ans, et parfois vous avez des ados, ou des jeunes hommes, jeunes femmes, on verra, voilà, c'est assez dur. Je vous parlais de ça ce matin parce que ça me semblait important, c'est la une de La Croix, je vous parlerai de la une de Libération aussi, Météo France complètement à l'ouest, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je sais que depuis quelques années c'est compliqué, Météo France, il y a eu des suppressions de moyens, des suppressions de postes, et pour connaître un ami coureur d'ailleurs, coureur à pied, qui bosse à Météo France, je sais depuis des années que ça se dégrade. Et c'est pas fini. Depuis la mise en place d'un logiciel d'automatisation qui s'appelle Alpha, pour pallier justement la réduction des effectifs, l'Institut multiplie les prévisions incohérentes, exaspérées. Les salariés prendront part ce mardi à la grève de la fonction publique. Les utilisateurs se plaignent. Les clients de Météo France, notamment les collectivités locales, se plaignent. Une météo précis, c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour la sécurité des personnes. Et il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux économiques également. Et les salariés se plaignent aussi énormément. Donc on va faire un petit point sur ce qui se passe à Météo France. Météo France qui s'enfonce dans le brouillard, titre ce matin, Libé, et une ambiance de travail qui est vraiment très compliquée. Regardez, un météorologue qui déclare « Je n'ai jamais vu autant de collègues au bout du rouleau. » Quand le travail devient une peine, ça aussi, ça ne va pas. Souvent, quand je parle du secteur agricole et notamment du secteur des éleveurs et de la production de lait, vous êtes quelques-uns à me dire « Lactalis, pas terrible cette boîte, il se passe des choses un peu chelou. » Lactalis, un système vache, pour Libération, c'est un peu les rois du titre. En pleine crise des agriculteurs, le numéro un mondial du lait, parce que le français Lactalis est le numéro un mondial du lait, a été ciblé par des manifestations qui dénoncent ses prix d'achat trop bas. Gourmand d'acquisition, enclin au silence, c'est un groupe qui communique très peu. Le groupe fait également l'objet d'enquêtes pour des pratiques anticoncurrentielles et d'évasion fiscale. En gros, un groupe qui est accusé de ne pas acheter le lait assez cher aux agriculteurs. Un groupe qui fait d'énormes bénéfices, dont le patron est richissime, c'est une des plus grosses fortunes de France. Un groupe qui fait l'objet d'enquêtes pour des pratiques anticoncurrentielles et d'évasion fiscale. Waouh, Lactalis, la bonne collection, quoi. Oh mon pauvre Gogonke, ok, force à toi. Coco Bébé 76, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci Yokik pour le 2e mois. Merci Wasilax pour le 3e mois. Voilà, donc on se penchera sur Lactalis. Hop, gros dossier dans Libération ce matin. Alors ça m'a surpris parce que un papier dans le Parisien sur la question de mobilité m'intéresse beaucoup. C'est comment on va bouger demain, comment on va se déplacer, comment on va se déplacer de façon à respecter mieux la planète et l'environnement notamment. Voilà, et la question du transport routier. On parle beaucoup des voitures, mais aussi les camions. Est-ce que les camions demain seront électriques? Bon, il y a encore peu de temps, dont la plupart des papiers que je lisais sur le sujet, c'était en mode, bah non, c'est compliqué vu les kilomètres que doivent faire ces camions, la question des batteries, c'est chaud, quoi. Et la piste sera plutôt l'hydrogène. Bah là, j'ai un article ce matin qui me dit, bah non, en fait, l'hydrogène, les filières concernées trouvent que c'est le truc qui est un peu en retard, c'est pas prêt. Et donc, ça va être de l'électrique pour les camions. Alors ça, c'est intéressant. Les camions aussi veulent carburer à l'électrique. Comme la voiture, le poids lourd devra tôt ou tard dire adieu au monde thermique. Voilà, ce sera une obligation. Hein. Une association met en avant ce que la filière pourrait apporter à l'environnement. On se penchera là-dessus. 20 km d'autonomie de camion, elles tiennent peut-être pas, mais on se pose quand même la question. Et puis, encore une intéressante, la une du Parisien. Il y a trop de sucre dans notre alimentation, ça ne va pas du tout. Il se cache, ce sucre, de façon un petit peu perfide, dans tous les produits transformés, hein, ceux qu'on ne cuisine pas, ceux qu'on achète tout près. Enquête inédite, par son ampleur, qui pointe cette dérive néfaste pour la santé. Que le sucre ne soit pas bon pour la santé, vous le savez, mais cette enquête nous montre que voilà, le sucre est malicieux, Hamilton, exactement, que le sucre est très présent, notamment en France, à l'achat, dans les produits de consommation courante, les produits transformés. Et alors, la grande surprise que moi j'ai appris, c'est qu'il y a énormément de sucre dans les produits salés. What ? Gorgée de café, là. J'ai besoin d'une gorgée de café, là. Pour répéter cette phrase totalement surréaliste. Il y a énormément de sucre dans les produits salés. Il y a du sucre partout. Il y a du sucre dans les pizzas, il y a du sucre dans les sauces pour les pâtes, là. C'est... Non, il n'est pas sucré, mon café. C'est black. Dans les chips, dans les biscuits apéritifs, c'est gavé de sucre. Voilà. C'est incroyable. Donc, on va se prendre... voilà. C'est un des combats de gastronomie, me dit Seb Francky. Le sucre, c'est pire que le sel. Voilà. Alors, les aliments très salés, comme les produits apéritifs, c'est double peine. T'as sucre et sel. Bim. Voilà. Et c'est pas très, très bon pour la santé, quoi. On se penchera sur les risques. Les risques pour la santé. Santé. Voilà. Bon, ça va, je les ai vus, les jeux de mots sur éviter tout ce qui est poudre blanche et tout. Ça. Magnifique, vous êtes très en forme. Et puis, un petit horoscope, parce que je vous aime, et on fera le petit jeu de l'horoscope qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, ça n'a pas de sens, mais ça nous fait rire. Il n'est pas bon, mon sommaire. Je consomme beaucoup de sucre, alors je n'en mets pas dans mon café, mais j'adore les gâteaux. Je suis un mangeur de gâteaux, et si je fais du sport, c'est d'abord pour manger des gâteaux. Voilà, les gâteaux, c'est la vie. Et mon amoureuse a un peu déteint sur moi. Il paraît que les gens qui s'aiment très fort déteignent un peu l'un sur l'autre. Et mon amoureuse adore manger des bonbons Haribo, les trucs dégueulasses là. Et du coup, comme je l'aime, mon amoureuse, du coup, j'en mange aussi. Voilà. Donc, notamment quand je joue du gaming, quand je joue le soir, j'ai toujours un petit paquet de crocodiles à côté de moi. Mais, non, l'horoscope, c'est tout à l'heure. C'est pas, MMG a raison, vous. MDR, tu bois du coca le matin, Sam? Non, Jean, ça m'est arrivé de finir un fond de coca. Mais là, ce matin, j'ai pas bu de coca, j'ai bu que du café noir. Ouais, et du pain et du fromage. Ma femme enceinte aime les Haribo à cause de moi et m'a réclamé des paquets ce week-end. Ayas, les femmes enceintes, elles demandent ce qu'elles veulent et il faut leur donner. Hein, voilà. Et d'ailleurs, les femmes aussi, tout court. Donc, ton amoureuse bientôt sur Valo. Alors, peut-être qu'un jour... Hélène, elle est un peu gameuse en vrai. Hein. Le vendredi soir, c'est soirée gaming à la maison. Hein. Ça joue à Mario Kart avec les enfants, ça joue à Pokémon, tout ça, hein? Ouais. Si tu devais garder une seule chose à manger sur une île déserte, tu prendrais quoi? Je sais pas. Bah, si j'étais un peu malin, je prendrais un truc avec des vitamines pour éviter le scorbut, tout ça, quoi. Mais c'est une seule chose. Une seule chose, tu vas mourir, hein, parce que tu vas être carencé très vite, quoi. Pas terrible. Je sais pas, je dirais des chocapics. C'est bien, le chocapic. Du beurre salé, disait The Pro. J'aime bien le fromage en vrai. Mais bon, là, t'imagines, c'est au bout d'un mois que du fromage tous les jours. Oh, de Dieu. Du Queen Yaman, ok, d'accord. Du Queen Yaman tous les jours, pendant, t'imagines. À la fin, pour faire le tour de l'île, tu roules sur toi-même. Ouais. Du comté, alors je vous vois là, comté, pommes de terre, des croquettes pour chat. Remarque, oui, il y a tout là-dedans. Choucroute, sucre, des golden grams, des pâtes au pesto, des compotes, all dead, du côté de Sarah, de la raclette. T'imagines le mec il mange de la raclette matin, midi et soir, quoi. Oh nom de Dieu, des pims à la poire, pop, 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 dis oui, tu vas sur un terrain glissant. Une poule vivante, Iclouf, hein, pour les œufs, malin. Des rognons sauce madère, pour le choix, à mon avis, au bout de quelques jours, t'en pourras plus de tes rognons. Oh, c'est trop mignon. Anthony Pic nous écrit dans le chat, ma fille de 10 ans vient de me dire un bateau pour partir de là. C'est mignon. Alors après, ça répond pas tout à fait à la question, c'était... une seule chose à manger. Mais c'est malin. Bravo à mademoiselle. Bravo. Un PC ou jouer à Valo. Non mais nicotine love. On a dit un truc à manger. Alors je sais que certains mangent des cartes graphiques ici, mais quand même. Ça y est, la team Pims qui s'est réveillée. J'en étais sûr. Merci Aramis Touquet pour ta réaction à ce qu'on appelle désormais l'affaire Chocapic. Mon chat, mais Morglas, arrêtez, un truc à bouffer. Morglas, tu vas pas bouffer ton chat. On ne mange pas. Laissez les chats tranquilles, laissez les chats en dehors de cette histoire. Vous êtes fous, quoi. Navi Bama, Samuel, on est à 18 sur 20 sur l'exposé. L'exposé sur Samuel Etienne, vous avez 18 sur 20. Il y a un sondage sur les Pimps. Ah, ça va, ça y est, vous lâchez les modos. Putain, les modos, ils ont lancé un sondage. Les Pimps, c'est oui, oh my god, 57%. Non, c'est hérétique, 44%. Il y a un débat de fou dans le chat. Ok. Ok, voilà la chaîne, quoi. Et ce matin, sur la chaîne de Samuel Etienne, le gars qui fait de l'info, il était sur quoi? Le Proche-Orient, l'Ukraine, la santé mentale. Non, on a fait un sondage sur les PIMS, surtout. Ouais, c'est surtout ça. Ah, ok, Navi Bama, avec ses collègues du lycée peut-être ou du collège faisait un exposé sur Twitch ce matin et on a cliqué sur ton live. Alors ok, alors si, attendez, s'il y a des élèves et des enseignants qui sont sur ce live, je vais commencer à parler bien parce que vous savez que je dis beaucoup de bêtises et je jure beaucoup sur Twitch, liberté de parole, d'expression totale ici. Donc là par contre, il faudra que je m'applique, quoi. Donc voilà, je vais à partir de maintenant, je vais utiliser un langage extrêmement châtié, bordel de merde. Voilà. Hein? Je pense qu'à un moment, il faut aussi faire attention à la langue. C'est important. Une langue, ça se respecte, ça se cajole, nom de Dieu. Voilà. Il faut arrêter de jurer sans arrêt, dire merde, crotte, zizi, prout, tout ça. Non, ici, on ne fait pas ça. Ici, on a un certain respect pour la langue française et on n'est pas à dire des dingueries. Voilà. Mon gros mot préféré pour Xenox, je sais pas trop. Peut-être ta gueule. Peut-être ta gueule. Bordel de cul, j'aime bien aussi. Bon, alors, une pensée pour les enseignants et les élèves qui sont sur la chaîne ce matin. Est-ce qu'on y va, bande de belles personnes? Est-ce que tu vas te lever après le stream? Me lever de ma chaise, ou sans doute, oui. Ouais. Il y a les enfants qui regardent. Oh, ça va. Alors, mes enfants à moi, ils regardent mes streams parfois et ils se sont rendus compte que je jurais beaucoup. Ça les fait rire. Et du coup, eh bien, depuis quelques jours, ils ont repéré ça. Et du coup, ils savent que les gros mots sont interdits. Mais comme je l'ai dit moi, ben, je peux plus rien dire. Voilà. Et ils arrivent avec leurs petits yeux brillants, là. Hein, voilà, et il dit, « Papa, hier soir, t'as dit M-E-R-D-E. » Et ça rigole. Et les petits yeux qui rigolent. Et ils se regardent tous les deux. « M-E-R-D-E. Voilà. » Hier, papa, t'as dit, dans ton stream, etc. Voilà. Et je ne peux rien dire. Et mon épouse me regarde en mode, « Putain, oh merde. » Ok, j'ai encore juré. Et voilà, je peux rien faire. Je suis coincé. Ne devenez pas streamer, hein, pour la santé de vos enfants, hein, pour la qualité de leur expression, quoi. « C'est un truc, c'est tout. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as vu le tweet d'Amine? C'est une dinguerie qu'il a annoncé là, je viens de voir ça là. Attends, Amine. C'est quoi ce truc de Kings World Cup? Vous êtes au courant ou pas? Mais c'est quoi ce truc? Mais le gars est fou. Qu'est-ce que c'est? On regarde? Mais je suis au courant de rien, moi. Ah, c'est le truc dont vous m'avez parlé avec Piqué hier. C'est un tweet qui a été posté hier soir à 8h21. Kings World Cup, Coupe du Monde, 7v7, 32 équipes au Mexique. Notre but, être sur le toit du monde. Soyez prêts, le casting de la Coupe va être monstrueux à partir du 26 mai sur ma chaîne. Mais c'est énorme! Mais c'est avec Neymar? Mais c'est quoi ce truc?
Yes, I'm coming.
Amin.
Piqué.
Amin. Congratulations. You will have a team in the Kings League World Cup. Your team will represent France, your country.
Attends, mais Neymar, pourquoi il est là déjà?
And you will have to choose the best coach and the best 12 players to win the competition.
Du coup, là, si je comprends
bien. Joder, puta madre.
You will compete against the best teams in the world.
You good?
Attends, mais je vais devoir jouer au football?
You don't have the talent.
Ah, ok.
T'es éclaté.
Ok.
Just the president.
C'est pour ça que Neymar est là?
Exactly. He will have another team. Are you afraid?
Non. Neymar, Brésil, machin chouette. On me bat les couilles. Tout ça, là, ça va se passer où?
In Mexico. Two weeks.
Mexico.
You will stay?
Si. C'est Queda.
C'est...
Bon.
Let's do something. I'll come to your place and we do a stream where I answer all the questions with your people.
Deal. Done. On serre la pince. Je vais l'éteindre ta Coupe du Monde.
Allez, à distance. Super.
Hey, attrape. On se voit bientôt.
See you soon.
C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est fou, mais Internet, mais les créateurs de contenu, mais les streamers sont en train de manger le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel poulet, nous dit 444. Lunaire que ça existe. J'ai rien compris, c'est qui ces gens? Arrête enfin, c'est fou. On vit dans un univers parallèle, nous dit Diesel, mais bien sûr. Mais c'est fou. 1 million de cash prize pour le vainqueur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est fou, ça. Incroyable. Mais c'est fou. Hâte de savoir qui seront nos 7 joueurs. Bah oui. Donc Amine va constituer une équipe, du coup. Mais du coup, il va recruter des joueurs de foot, Amine. C'est ça. Pas des créateurs de contenu. On est d'accord, c'est un peu ça, l'idée, hein. C'est incroyable. Cette scène, elle est folle. Hein, dans ses abonnés, pas le droit aux pros. Que les amateurs, qui va jouer alors? Alors que les amateurs, pas de pros. Ok, la seule condition, pas de joueurs sous contrat. Donc ça peut être des anciens joueurs de haut niveau. Oh, Zizou! Ah mais c'est sûr! Mais il y aura Zizou. Mais c'est sûr! Sous contrat. Zizou, Ben Arfa, Pogba. Arfa, je suis pas un grand spécialiste de foot. Hein. Après, il faut le gérer quand même. Hein. Enfin, bon. Incroyable. Samuel Etienne en défenseur. Comment te dire au niveau du foot. À l'école, j'ai fait faisais partie du gars qui était choisi en dernier, tu sais, dans l'équipe là. Incroyable. Samuel, tu seras au but. Non, faut pas. Ah, je me suis fait les croiser, exactement, ouais. Incroyable. Bon, bah, c'est fou. Ok, Internet, c'est devenu une dinguerie. Comment veux-tu que la télé suive, quoi ? Je veux dire, c'est... Ça devient fou. Comme dit Captain Note, je pense que je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, allez, on y va. Mais ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour faire un détour par, disons... peut-être. Il y a peut-être un truc que je veux aller voir quand même avant de commencer les articles. Pastradan, merci beaucoup pour ce troisième mois et pour le petit message. Chalala, merci beaucoup pour le cinquième mois. Santé, mais pas les pieds, merci pour le 20e mois d'abonnement. T-Bay, merci beaucoup pour le 31e mois d'abonnement. J'ai plus la musique du café, j'ai changé de console de mixage, mais je vais te la retrouver. CocoPB76, merci pour le 16e mois. Yokik, merci pour le 2e mois. Vasilax, merci pour le 3e mois. Et on y va. Oui, il y a un truc qui n'est pas dans les journaux ce matin et je trouve ça bizarre. Et du coup, on va aller le chercher. C'est ce qu'a déclaré Najat Vallaud-Belkacem à propos de l'Internet, là. Voilà. Je suis très surpris parce qu'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et je suis surpris de ne pas voir d'article, en tout cas dans la presse, print. Le Figaro a fait un article dessus, me dit Mister Svenja. Oui, mais pas dans le Figaro écrit, dans le print, celui que je télécharge. Voilà. En revanche, effectivement, voilà, vous avez plein d'articles. Voilà. On a un article sur franceinfo.fr qui a été posté il y a 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis un peu surpris de cette histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les faits, Najat Vallaud-Belkacem, c'est une socialiste, hein, ancienne ministre de l'Éducation quand même, propose de rationner Internet en limitant le nombre de gigas à utiliser quotidiennement. Ok, tous les streamers en sueur, et les viewers aussi. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale estime que réduire notre exposition aux écrans serait bénéfique à bien des niveaux. Excuse-moi, Najat, qu'est-ce que tu racontes ? Et le truc d'Amine, là, alors, et comment on va le regarder ? Notamment pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, le réchauffement climatique ? Mais Najat ? J'ai un problème, vous avez un problème, nous avons un problème, s'emporte l'ancienne ministre dans une tribune publiée lundi dans le Figaro. Je ne l'ai pas vu, cette tribune. Bon. L'ancienne ministre de l'Éducation appelle à repenser nos rapports aux écrans et plus concrètement à Internet. Elle propose que l'on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner Internet. Par exemple, en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement. Mais comment je stream, moi ? Comment je stream ? Najat, bordel ! Il ne s'agit pas pour moi de lancer une énième plainte au relent rétrograde, mais elle se demande si nous avons besoin de tant d'Internet que cela. Ben oui, je dirais quand même. Elle estime que réduire notre exposition aux écrans serait bénéfique à bien des niveaux en termes de développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, le réchauffement climatique. Rationner Internet ne fera pas disparaître tous ces problèmes, ouais, tu m'étonnes, mais la rareté oblige à une certaine sagesse. What ? Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD. Mais qui regarde des heures de vidéos pornographiques tous les jours ? Moi, je regarde du Valorant, je regarde pas du... Tu peux pas... Qu'est-ce qu'il y a ? La secrétaire d'État chargée du numérique. Alors, du côté du gouvernement, on critique. La secrétaire d'État chargée du numérique, donc dans le gouvernement actuel, a critiqué la proposition et voyant probablement la pire manière d'aborder le débat sur nos rapports aux écrans, traiter les risques mérite tellement mieux qu'une approche manichéenne et hors sol de l'espace numérique dont les usages sont aussi nombreux que les usagers. Mais qu'est-ce que... Écoutez... Moi, j'ai interviewé, je vous le disais hier, à plusieurs reprises Najat Vallaud-Belkacem ces dernières années, surtout quand j'étais spécialiste d'info et de politique, et je suis très surpris que l'ancienne ministre de l'Éducation fasse cette sortie. Essayons de la défendre, parce que je vois beaucoup de réactions dans le chat en mode « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» bon, y a plein d'articles. Le Point, Le Figaro, BFM, Ouest France... alors, je vois plein de réactions négatives. Essayons de comprendre. Essayons de comprendre sa logique. Est-ce que ça a du sens ? Défécateur, se limiter à 3 gigas par semaine, oui, on va y arriver, mais 3 gigas, non. On ne peut pas défendre ça, Samuel, me dit Dragon Wild. Vous savez, moi, j'aime bien essayer de mettre de la place des gens, y compris ceux qui ne pensent pas comme moi. Non, c'est indéfendable, elle vit sur une autre planète, me dit Edfalm. 3 gigas par semaine, c'est une heure de visionnage Twitch. Ça va être compliqué pour moi, alors. Elle a rien compris à Internet, me dit Raven. Il faut arrêter de vouloir prendre les gens par la main à chaque occasion, me dit Trium. 100% elle cherche le buzz. En plus, c'est pas trop son tour de chercher le buzz à Najat Belkacem, quoi. Elle a plutôt un parcours, justement, pas trop là-dessus, quoi. Elle ouvre le débat, Ticlem. Je pose la question. J'ouvre le débat. Diminuer les écrans, oui. Cette proposition, non, me dit Ares Kennington. Oui, limiter Internet, réseaux sociaux pour les enfants. En vrai, on passe trop de temps sur les écrans, ça ne fait pas doute, me dit Pastradan. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas. Vous voyez, je suis content parce que même sur un truc qui pourrait provoquer des réactions épidermiques, vous essayez de comprendre, quoi. Il est prouvé scientifiquement que la cognition est augmentée en jouant aux jeux vidéo, me dit Nutizor. Samuel Etienne en a la preuve, il est maintenant capable de dépasser son perso sur Valo sans regarder son clavier. Exactement. Vous voyez qu'Internet, pour les personnes âgées, c'est très bien. Hein, voilà, regardez. Très bizarre. Pour les enfants, oui, il faut réguler un peu, mais de façon logique. Ouais, ça paraît un peu agressif. Totalement impossible, ça va tuer Twitch, ça va tuer YouTube, ça va tuer la création, on dit AdroGamer. Et le télétravail alors ? Oui, et le télétravail alors ? La réponse de Xavier Niel sur Twitter est pépite, oui, j'ai vu. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour les pros qui ont besoin d'Internet au quotidien ? Enfin, tout le monde a besoin d'Internet au quotidien maintenant, pour le travail. Bizarre. J'essaie de comprendre grâce à vos commentaires, mais je ne comprends pas trop sa logique. C'est un peu radical quand même. Voilà. Comme le dit Yipeki, elle met sans doute en parallèle maladroitement deux notions qui n'ont rien à voir, quantité de data... Et l'usage qui en est fait. Ouais, mais je trouve que sa prise de position mélange un peu tout, quoi. Pareil, Samuel me dit de Cold Fire, j'ai beaucoup de respect pour elle, et j'ai pas compris sa prise de position ultra boomer, là. C'est étrange. Bon, vous n'êtes pas convaincu quand même. Hein. Bon, ouais. Bon, je pense que c'est pas la peine de faire un sondage sur comprenez-vous la prise de position de Najat Vallaud-Belkacem parce que manifestement, vous comprenez pas trop quoi. Enfin, la logique du truc quoi. Je regarde s'il y a un article un peu de fond là-dessus là. Voilà. Quelque chose me dit qu'il y aura peut-être des articles là-dessus demain matin. Voilà. Bon, on y reviendra. Les amis, c'est parti pour les articles du jour. Moi, je trouve très bien qu'il y ait une pleine page dans le Parisien sur ce qui se passe au Proche-Orient. Parce que voilà, ces derniers temps, il y a eu moins d'articles dans la presse sur ce conflit qui dure. Et cet article du Parisien, page 6 aujourd'hui, nous résume très bien où on en est au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens. Paf la pastèque, merci beaucoup pour le 7e mois d'abonnement. À Rafah, le mirage d'une évacuation des civils. Selon Israël, il y aura bien une offensive terrestre dans la ville du sud de Gaza, donc la ville de Rafah. L'assaut est conditionné à l'évacuation des populations civiles, complexe à mettre en œuvre. Cet article résume très très bien là où on en est aujourd'hui. Au Proche-Orient. Benjamin Netanyahou n'en démord pas. Le Premier ministre israélien a prévenu dimanche que la pression internationale n'empêcherait pas Israël de lancer son offensive terrestre à Rafah dans quelques semaines après avoir assuré l'évacuation des civils. Tfam dit, mais oui, évacuer Rafah, mais où il va les envoyer? C'est toute la question posée par l'article, tu as bien raison. Toujours dans l'optique d'atteindre son but de guerre initiale, éliminer le Hamas, libérer nos otages et s'assurer que Gaza ne sera plus une menace pour Israël, ce sont les mots de Netanyahou. Annoncé début février, un tel assaut s'apparenterait à une escalade majeure dans la détérioration de la situation humanitaire de cette ville du sud de la bande de Gaza, bombardée régulièrement déjà par Tsahal depuis plusieurs semaines, Tsahal c'est l'armée israélienne, où s'entassent près de 1,5 million de Palestiniens. Julien, à ce soir. Rafah est le dernier réduit dans lequel ces populations ont été contraintes d'évacuer. Elles sont aujourd'hui exsangues, épuisées, affamées et en partie malades, rappelle Claire Magone, qui est directrice générale de Médecins sans frontières. Si l'échéance de l'assaut est retardée depuis son annonce, c'est qu'Israël ne peut se permettre un énième bain de sang, écrit le Parisien, alors que les avertissements de la communauté internationale se multiplient, le nombre de morts ne cesse de grimper. Gaza est le plus grand cimetière à ciel ouvert pour des dizaines de milliers de personnes, a encore dénoncé lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. La pression sur Israël vient aujourd'hui principalement des États-Unis, principaux alliés de l'État hébreu, qui répètent leur opposition à toute offensive contre Rafah, mettant en péril les civils et pouvant provoquer à nouveau des milliers de morts. Une offensive majeure là-bas serait une erreur, a encore déclaré Joe Biden lundi soir. Si la Maison-Blanche continue d'approuver l'éradication du Hamas, plus le bilan humain s'alourdit, moins le pouvoir américain accepte la méthode israélienne. La promesse d'évacuation de la population, puisque c'est ce que dit Netanyahu en disant on va aller taper le Hamas à Rafah, mais on va évacuer les civils. Cette promesse s'apparente toutefois à une mission impossible. C'est exactement ce que quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure. Dans ce territoire adossé à l'Égypte, on est au sud de la bande de Gaza, alors que l'Égypte ne semble pas prête à ouvrir les portes du Sinaï, les possibilités d'échappatoire sont minces. Où vont aller ces civils palestiniens, hein, c'est toute la question. L'hypothèse d'un retour vers le nord, hein, qui est quasi détruit, semble peu probable. Près de 80% des bâtiments y ont été rasés ou endommagés. Une partie des civils pourrait être évacuée vers la zone côtière d'Al Mawasi et son camp de tentes de fortune, c'est ce que dit la presse israélienne. Problème, cette toute petite bande littorale d'une quinzaine de kilomètres carrés qui héberge nombre de civils déplacés depuis le début, est déjà surchargée. Il y a 1,5 million de personnes à déplacer. Les déplacés du sud de Gaza pourraient dès lors trouver refuge ailleurs, dans des îlots humanitaires éparpillés, dans la Middle Area, au centre de la bande de Gaza, espace moins densifié que les extrémités nord et sud, sauf qu'il y a encore des combats dans cette zone. Bon, ok. C'est ce qui semble se dessiner. Pour installer le maximum de déplacés avec les ressources nécessaires, explique un spécialiste du Moyen-Orient, l'opération semble toutefois complexe à mettre en œuvre, d'autant que les populations ne sont plus en capacité de reprendre la route, surtout les enfants et les personnes âgées, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour Guillaume Ancel, ce plan d'évacuation s'apparente surtout à une annonce d'affichage visant à se conformer aux demandes pressantes des Américains, hein, du blabla quoi. Le spécialiste s'interroge sur le bien fondé d'un énième déplacement des réfugiés vers d'autres zones de guerre, rappelant que les combats ont toujours lieu dans le nord et dans le centre. L'autre conséquence potentielle du déclenchement d'un assaut aux conséquences meurtrières serait l'anéantissement des fragiles discussions pour une trêve dans la bande de Gaza, alors que les négociations patinent toujours. Voilà, un article, une page dans le Parisien qui nous dit assez bien où on en est de ce conflit du Proche-Orient. Je vous lis. Merci le gros Minet. Comment vas-tu ? Patrick Cohen. Je pense pas que ce soit le vrai. Parce que Patrick Cohen, il sait. Pourquoi les pays arabes n'accueillent pas les Palestiniens ? Patrick Cohen. Pourquoi ? Bah parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. La situation dans laquelle se retrouvent les Palestiniens aujourd'hui est principalement due par l'État d'Israël, bien sûr, mais les pays arabes de la région sont responsables aussi. Voilà. C'est-à-dire que les Palestiniens ont totalement été abandonnés ces dernières années, y compris par les voisins arabes. Voilà. parce que les pays voisins, l'Égypte notamment, n'ont absolument pas envie d'accueillir les Palestiniens sur leur sol. Ce sont des chelous. Non, je ne suis pas d'accord, Samuel, je parle de faits. L'Égypte n'ouvre pas sa frontière aujourd'hui. Les pays arabes ne veulent pas des Palestiniens sur leur sol. Ils ont peur de déstabilisation, ils ont peur de problèmes sociaux, ils ont peur de problèmes économiques, ils ont peur d'accueillir aussi des membres armés du Hamas. Voilà, donc voilà. C'est pas de l'analyse, hein, c'est du fait. Hein. Les Palestiniens ne sont pas bienvenus dans les pays arabes de la région. Voilà. Et puis, comme le dit Grossignol, ça ferait plaisir aussi à Israël. C'est ce qu'ils veulent. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais la vraie raison, c'est un truc un peu égoïste, quoi. Alors, c'est intéressant ce que dit Chelou. Je trouve que remettre la responsabilité d'accueil sur les pays voisinants, c'est alléger la responsabilité d'Israël. Tu as raison aussi. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que si les Palestiniens sont là aujourd'hui dans cette situation, c'est parce qu'ils ont été oubliés du monde entier ces dernières années. Voilà, on a totalement oublié le processus de paix israélo-arabe. On a totalement oublié les pays occidentaux, les plus grandes puissances de ce monde, qu'il fallait faire pression sur les acteurs de ce conflit pour les amener à une solution. Voilà. Et les pays arabes font partie aussi de cet oubli. Quoi. Voilà. Même si, évidemment, le cœur du problème est entre Israël et les Palestiniens. Ils ont été oubliés de tous, les Palestiniens. De tous. Mais Nécori a raison, hein. Il n'y a pas lieu de les accueillir ailleurs, ils sont chez eux. C'est comme si en 1960, la France demandait aux Marocains, aux Tunisiens d'accueillir les Algériens. La solution de base qui préside à la création d'Israël, c'est deux États. C'est deux pays, quoi. Sauf que les Palestiniens n'ont jamais eu leur pays, leur État, quoi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la seule solution. Encore aujourd'hui. Et tant que la communauté internationale ne fera pas ce qu'il faut pour créer les conditions d'un État, d'un pays palestinien pouvant vivre dans la paix et en harmonie dans la région, avec le voisin israélien, tant que ce pays, cet État n'existera pas, le conflit ne s'arrêtera pas. Bon. Non. À une époque, on en parlait tous les jours. Je trouve dommage qu'il y ait moins d'articles en ce moment dans les médias sur ce sujet. Je trouve formidable que Le Parisien ait consacré une pleine page à la situation. On voit que c'est très très chaud pour la zone de Rafah. On va suivre ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. On va peut-être apprendre qu'Israël lance une offensive qui potentiellement, en termes de coûts humains, sera catastrophique. On va suivre ça, bien sûr, ici. Merci en tout cas d'être resté un peu chill sur un sujet qui est un sujet hyper, hyper sensible. Mais on a parlé des heures, pour les habitués le savent, des heures et des heures et des heures et des heures sur cette chaîne depuis des mois et des mois et des mois. Ça, c'est un sujet qui nous ramène en France, mais qui est un sujet qui est très lourd, qui est très dur, qui est très triste. Mais c'est très, très beau ce que fait en même temps Lacroix. Lacroix associée à un collectif, une association qui s'appelle Les Morts de la Rue. Et comme chaque année, ici en ce mardi 19 mars 2024, Lacroix et le collectif Les Morts de la Rue rendent hommage à 656 personnes sans domicile fixe, SDF, décédées depuis début 2023. 656 personnes décédées dans la rue en France depuis le début de l'année 2023, c'est un minimum, hein, c'est un bilan qui ne se veut pas exhaustif. Mais il y a sans doute plus de décès que ça. Ce sont ceux que cet asso, ce collectif, a réussi à compter, à comptabiliser. Je vous explique la démarche. dans un très bel édito assez touchant, signé Isabelle de Golmine dans La Croix. On s'indigne, mais on passe tous à côté d'eux sans rien faire, Guakin. Bah, sans rien faire, ça dépend. Hein. On peut, au quotidien, on peut toujours faire un petit peu pour les gens qu'on voit comme ça dans la détresse, mais bon. Lisons cet édito, intitulé « Dignité ». Princesse, c'est la femme que vous voyez ici en photo, là, qui est décédée. Princesse, donc c'est l'une, vous l'avez compris, des 656 personnes mortes dans la rue en 2023. Princesse avait 53 ans. Princesse est morte le 21 août de l'année 2023 dans la rue. Elle était de ceux qui n'ont pas de chez eux et vivent sous nos yeux dans une invisibilité totale avec pour seul toit les néons des lampadaires et les ombres des murs. Princesse est partie après une vie d'adulte commencée trop tôt, 14 ans sans doute, une existence brûlée par l'addiction aux drogues, et l'alcool, une vie de violence, une vie de misère. Princesse est l'une des 656 personnes sans domicile, décédées depuis début 2023, auxquelles le collectif Les Morts de la Rue tient à rendre hommage aujourd'hui. Oui, Princesse, c'est son surnom, Xanonox. Ça me semble un peu évident, quand même. Xanonox, petit effort. Concentre-toi sur les faits. Princesse est l'une des 656 personnes sans domicile, décédées depuis début 2023, auquel La Croix et le collectif Les Morts de la Rue tient à rendre hommage aujourd'hui. Il y a même une cérémonie à Paris, aux arènes de Lutèce. Cérémonie en leur mémoire. La trop longue lecture de tous ces noms, voilà, ici. Voilà. La Croix publie les 656 noms. La longue, trop longue lecture de tous ces noms que La Croix a voulu mettre dans ses pages est d'abord un cri d'alarme. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, dans un pays développé comme la France, on puisse encore mourir dans la rue. Je relis cette phrase. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, dans un pays développé comme la France, on puisse encore mourir dans la rue. Et il est tout autant que ces SDF ne vivent en moyenne que 48 ans, moyenne d'âge des victimes, 48 ans, et qu'ils décèdent souvent de morts violentes, c'est-à-dire à la suite d'une agression, d'un accident de rue ou d'un suicide. Mais cette cérémonie se veut aussi un hommage à des personnes. Qu'est-ce qu'une vie comme celle de Princesse ? Toxicomanie, alcoolisme, voudrait résumer certains. Pourtant, Princesse était une femme, une boule de vie et d'énergie, racontent ceux qui l'ont connue. Princesse a eu des amis, elle a protégé d'autres femmes. Princesse a fait du bien, elle a ri, elle a plaisanté, elle avait ses coups de cœur et ses coups de gueule. Elle savait être généreuse, elle qui n'avait pas grand-chose. Princesse ne saurait être assignée à sa condition de SDF, elle était aussi une personne dans toute sa dignité, comme nous le rappelle le collectif Les Morts de la Rue. L'affirmer, c'est la première manière de résister contre l'exclusion. Voilà. Je ne vais pas vous lire les 656 noms, j'aurais voulu le faire, mais ce n'est pas possible pour des raisons matérielles, sinon on ne pourrait pas lire d'autres articles ce matin, mais je trouve ça très beau, très fort, très poignant que La Croix publie ce matin ces 656 noms. Voilà. Ce qui saute aux yeux quand vous les parcourez quand même, c'est l'âge très jeune des personnes, voilà, en moyenne autour de 50 ans. Voilà, et le fait que malgré les recherches de l'association, on n'ait pas toujours l'identité de ces personnes. Voilà. On a parfois, mais pas souvent, un prénom et un nom. Parfois, on n'a qu'un nom. Parfois, on n'a qu'un prénom. Parfois, on n'a qu'un pseudo, un surnom, Princesse. Parfois, on n'a rien. Et ça donne Franck, 50 ans, en janvier à hier. Mohamed Faisal, 48 ans, 1er janvier, à Paris, 13e. David, dit le prince des rigoles, 49 ans. Un homme non identifié, 60 ans environ. Thierry, 65 ans, le 4 janvier. Une personne, le 2 mars à Bordeaux, on ne sait pas qui c'est. Un homme, 60 ans environ, à Poissy. Benjamin, dit The Fisherman, 46 ans à Toulouse. Un homme, dit Mousse, ou alors l'oiseau, on l'appelait l'oiseau aussi, 57 ans. Une adolescente, 16 ans, le 6 mars, à Sarcelles. Voilà. Il y a 4 pages comme ça. Et encore, ce n'est que... Il n'y a pas tous les noms des gens qui sont morts à la rue cette année. Voilà pour ce que fait ce collectif, voilà ce que fait aussi La Croix. Moi, je trouve ça très très bien. Une façon de rendre leur dignité à ces personnes que nos regards le plus souvent ont ignorées. Quoi. Je vous lis un petit peu sur le sujet. Et puis, merci pour tous les F. C'est une façon de vous associer à ça. Quoi. Je vous lis. Je vous lis. Ok, il y a Zaldarf qui dit « Je fais partie de cette association. » Je n'avais pas vu ton message. « Je participe notamment aux obsèques de... » Oui, parce que oui, tu as raison. Je ne l'ai pas dit, mais cette association organise des obsèques aussi pour ces personnes. « Je participe notamment aux obsèques de personnes qui sont seules et sans famille pour qu'ils ne meurent pas oubliés de tous. » Zaldarf, bravo. GG à toi. Olive Poff écrit dans le chat ce matin, à l'heure actuelle, sans les associations, ces personnes n'existent pas. Il n'y a plus de politique sociale depuis de nombreuses années dans notre pays. N'oublions pas de soutenir nos assos, n'oublions pas d'aider quand nous le pouvons. Donnons du temps. Bon, désolé, je ne suis pas en mode bonne nouvelle ce matin, mais il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas passer, je pense. Voilà. Et La Croix en parle une fois par an. Et je ne voulais pas rater ce dossier, quoi. Voilà. Et hélas, on en reparlera sans doute l'année prochaine dans les mêmes conditions. Il y a un truc qui ne va pas du tout à Météo France. Bon, ça, je sais, c'est un sujet que j'ai en tête, puisque je vous le disais, moi, j'ai un copain runner qui travaille à Météo France et qui me parle de ça depuis des années. Voilà. Baisse de dotation, baisse des moyens pour ce service public, beaucoup de suppression d'emplois à Météo France. À un moment, quand tu demandes à moins de personnes de faire le même taf qu'avant, voire plus, parce qu'il y a plein de nouvelles missions Météo France ces dernières années qui ont été mises en place, et à un moment, il y a un truc qui va coincer. Eh bien, ça coince. Ça ne va pas du tout. Météo France complètement à l'ouest, Libération se régale avec les titres ce matin. Depuis la mise en place d'un logiciel d'automatisation qui s'appelle Alpha pour pallier justement la réduction des effectifs, l'Institut multiplie les prévisions incohérentes. Exaspérés, les salariés prendront part aujourd'hui à la grève de la fonction publique. Que se passe-t-il ? Édito de Paul Quignot. Édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. C'est aussi parfois un article qui résume assez clairement une situation complexe. C'est le cas avec cet éditorial de Paul Quignot qui écrit de très bons éditos. Avis de tempête, sale temps, orage à prévoir. La liste des métaphores plus ou moins drôles pourrait être longue comme le bras pour décrire la situation de crise qui sévit aujourd'hui à Météo France. On préférera, parce que l'affaire est sérieuse, citer un prévisionniste de l'agence météorologique qui, comme beaucoup de ses collègues, répondra aujourd'hui à l'appel de la grève dans la fonction publique. Ce prévisionniste qui dit « Je ne recommande à personne de regarder les cartes de base qui annoncent la pluie et le beau temps. Elles sont souvent truffées d'erreurs. Ça n'est plus du tout fiable. » Le constat est partagé par un client de Météo France, responsable des services techniques d'un département, qui dit « La prévision que nous payons n'est pas bonne. » Diantre, Météo France, baby, quoi. En cause, qu'est-ce qui se passe ? Le recours par Météo France à une nouvelle base de données qui fournit des modèles et délivre désormais la météo au grand public, couplé à une baisse importante des effectifs depuis 10 ans. L'utilisation manifestement précipitée de cet outil informatique entraîne une multiplication de bugs, la diffusion de fausses informations en nombre, un picto neige par exemple alors qu'il fait 10 degrés, une vitesse de vent largement sous-estimée par ici. L'enjeu dépasse la question du matin sur le parapluie ou pas au fond du sac, petite ou grosse laine sur le dos, parce que les informations météo sont cruciales pour de nombreuses professions, pour de nombreux enjeux économiques ou pour des questions de sécurité. Le malaise à Météo France n'a évidemment rien à voir avec l'utilisation de data, mais avec ce grand classique écrit Libé des gouvernements libéraux pour qui la fonction publique n'a d'avenir qu'à condition d'être réduite. Appliqué à Météo France, ce dogme qui nourrit la colère des agents est d'autant plus incompréhensible que dérèglement climatique oblige, eh bien, la demande d'informations fiables n'a jamais été aussi vitale. Je résume Libé, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de météo fiable et on a cessé ces dernières années de réduire les moyens de Météo France, notamment les moyens humains. Et aujourd'hui, eh bien, la qualité de la prévision s'est dégradée. Voilà. Meurs me dit, j'ai un ami dans ce domaine qui m'a dit que les infos à plus de 48 heures, vraiment, il ne fallait pas s'y fier. Je vous lis. Je vous lis. Hein. Bon, il y a beaucoup qui continuent à échanger sur les sujets précédents, c'est très très bien d'ailleurs. Il fait tout, et dans l'actualité, parfois il y a de mauvaises nouvelles. Il fait tout, je dis, mais tu veux nous plomber le moral ou quoi ? Moi je ne suis pas un collecteur de bonnes nouvelles. Hein. Mais c'est vrai que ce matin c'est un petit peu lourd, j'avoue. C'est vrai que quand tu bosses dans le BTP et qu'on t'annonce à moins de 2 degrés avec chute de neige, alors qu'au final il fait 12 degrés plein soleil, ça la fout mal, dit Citius. Solo Chiro, bienvenue chez nous. Tu es au bon endroit. Encore une preuve qu'on a du retard en informatique et qu'on ne met pas les moyens pour quelque chose de qualitatif, dit Soda Prise. En fait, le logiciel n'était pas prêt et ils ont forcé pour le mettre en place. Merci beaucoup, Warsforce, c'est gentil. Est-ce que les prévisions d'autres agences météo font les mêmes prévisions sur la France ? Utopie, je n'ai pas, Libération n'en parle pas. Poutine, David, on en a parlé hier. C'était un sujet, l'élection présidentielle avait lieu ce week-end, donc on en a parlé hier, lundi. Tu vois, tout ça dans le replay. Bien sûr qu'on en a parlé hier, c'est tellement essentiel. Vinox, FTN, merci beaucoup pour le Prime, merci pour le soutien. Oui, c'est vrai que j'ai des petits yeux, Elias. J'abuse un petit peu de Val en ce moment. J'avoue. Météo France, donc. Et maintenant, on va parler... Attendez. J'avais oublié. Il y a l'aspect humain sur lequel je voulais m'arrêter aussi à Météo France avec des témoignages de prévisionnistes qui disent vraiment c'est dur humainement. Quoi. Après, je vous parlerai de Lactalis, la boîte du lait. Là. Météo France a vu donc ses effectifs fondre en 10 ans, tandis qu'un parallèle... le nombre de ses missions a cru pour faire face au changement climatique hein, sur les îlots de chaleur, sur les risques de feux de forêt, par exemple. À les écouter, on pourrait se croire dans les couloirs d'un hôpital, l'enceinte d'un tribunal ou encore les murs d'une salle de prof. Les mêmes mots pour les mêmes peines, manque de bras, absence de moyens, bricolage, découragement, amertume, les salariés de Météo France n'échappent pas au délabrement du service public, écrit Libé. Je suis rentré il y a 40 ans dans cette maison et je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant de collègues au bout du rouleau, atteste cet agent d'une petite soixantaine d'années. Même les gens qui ont une certaine bouteille, les armes pour mieux encaisser, se disent aujourd'hui exténués, hein, quand le travail épuise, comme s'ils étaient happés dans un programme de machine à laver sans fin. Ces 10 dernières années, l'établissement public à caractère administratif, donc Météo France, a perdu plus de 20% de ses effectifs, ce qui est énorme. De 3310 postes en 2013, on est passé à 2614 l'an passé. Baisse drastique, délétère, ayant conduit à une pression accrue sur les équipes. La mise en place de Rustine, dont la dernière en date au cœur d'un mouvement social interne, consiste à compenser la pénurie de prévisionnistes de la chaîne de production de données avec un truc d'automatisation, eh bien, ne marche pas très bien. Météo France est à l'os, place aux machines. La situation actuelle de la célèbre institution chargée d'assurer le service national météo et l'élaboration également des connaissances sur le climat ressemble à une prise en tenaille. De nombreuses équipes sont sous-effectives, les conditions de travail sont à la limite de l'insoutenable et pourtant jamais la maison n'a été aussi sollicitée. On est attendu au tournant par un paquet d'acteurs différents, et explique un prévisionniste, François Giroux, qui est membre de la CGT Météo. Les citoyens, le gouvernement, les collectivités locales, les entreprises, vous savez, quand il y a des problèmes des météos extrêmes, à chaque fois, c'est « Ah, mais est-ce que Météo France l'avait bien prévu ? Vous avez bien annoncé le truc ?» Tout le monde est en train de prendre conscience de la réalité du changement climatique, des risques que présentent les événements météorologiques extrêmes, l'augmentation des températures, je vous en parlais à l'instant. Donc tout le monde a le regard fixé sur nous, sauf qu'il y a un décalage fou entre les besoins croissants du recours à nos services et la réalité du nombre d'agents pour y répondre. Voilà. Merci Kuki Senpal pour ton message. Hein, faire plus avec moins. Dans toutes les entreprises, en ce moment, c'est la même situation, estime Reynolds. Confirmation de OG Winehouse. Je ne suis pas dans le service public, mais dans le privé. On vous rassure, c'est la même chose chez nous. Voilà. Je suis agriculteur, me dit Polygon, et on n'arrive plus à se fier à la météo, alors que c'est essentiel pour notre métier. La fonction publique est toujours vue comme un coût. C'est vrai, mais ce sont aussi des services rendus, nous rappelle l'AMAZ. Je travaille à l'hôpital et en libéral, et c'est pareil partout, dans tous les services non financiers, Zbolsama. C'est pareil dans toutes les entreprises, penser qu'on remplace dans un claquement de doigts des hommes par des automates. Voilà, Draxou TV, je regarde la météo tous les jours pour mon taf et franchement c'est imprécis de malade, même 3 heures avant de sortir ça n'est pas précis. Voilà, bon bah, je crois que le constat il est partagé par tous. Ouais, t'as un témoignage de bouc moustache dans le chat. Je suis surveillant pénitentiaire et nous aussi, on galère sur population carcérale et manque d'agents. Merci Libé pour cette enquête, triste sien. Merci Musti. Alors, je vous en parlais, on va aussi parler de Lactalis. C'est le nom de l'entreprise qui pop souvent quand on parle de la crise agricole et de la colère des agriculteurs en France. Lactalis, numéro 1 mondial du lait. C'est français, mais c'est une entreprise qui soulève quelques problèmes. Un système vache, bon, Libération se fait un petit peu plaisir, hein, Libé aime le jouer avec les mots. Et plus sérieusement, en pleine crise des agriculteurs, le numéro 1 mondial du lait a été ciblé par des manifestants qui dénoncent ses prix d'achat très bas, gourmands d'acquisition et enclins au silence. Le groupe fait l'objet d'enquêtes, hein, actuellement pour des pratiques anticoncurrentielles. On s'entend entre entreprises sur le dos des consommateurs et d'évasion fiscale, on met les sous un petit peu dans des pays où ça va bien quoi. Donc Lactalis, une entreprise, nous dit Libé, qui n'est pas blanche quoi. Voilà. 28 milliards de chiffre d'affaires. 28 milliards de chiffre d'affaires. 85 500 salariés. C'est à peu près la taille de mon entreprise de streaming, pour vous donner une petite idée. 270 laiteries et usines installées dans 51 pays, États différents. Le groupe a détrôné en 2022 Danone comme la première entreprise française du secteur agroalimentaire. Pole position, mais qui n'a pas adouci les méthodes et la quasi-obsession du secret de cette entreprise mondiale, détenue par une famille. C'est une entreprise... oui, Ribon TV, chiffre d'affaires, ses différents bénéfices, oui. Enfin, oui, enfin, tout le monde le sait, je pense. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui rentre dans l'entreprise. Et après, il y a les salaires, il y a les charges sociales. Enfin, oui, enfin, on a tous... je pense que tout le monde le sait ici. Ben, c'est pas non plus l'actu expliqué en maternelle, quoi. Enfin, je pense, quoi. J'espère. Ben, s'il faut que j'explique dans chaque article un peu économique ce que c'est un chiffre d'affaires, un bénéfice, un dividende, ça va être... c'est pas le petit quotidien pour les petits, quand même. Je pense. Alors, je continue. C'est une entreprise familiale qui est détenue par une famille, les Besnier, dirigée par Emmanuel, qui est l'un des trois enfants de la troisième génération aux commandes. Sollicité par écrit, Lactalis n'a pas souhaité répondre à la liste de questions que lui a adressée Libération. Elle n'a pas non plus rendu Lactalis plus généreux dans la rétribution des paysans. Johan Serrault, qui élève 70 vaches dans le Perche, note même un durcissement au sommet du groupe. On dit Beignet, on ne prononce pas le S, merci beaucoup. Famille Beignet. Pourtant, je me posais la question et la réponse est dans le chat, vous êtes trop fort. Pourtant, de l'avis de nombreux observateurs, le groupe avait fait profil bas depuis la crise de 2018, durant laquelle Lactalis avait été sévèrement mise en cause, vous vous en souvenez peut-être, pour la présence de salmonelle dans du lait infantile. D'autant que la loi Egalim, dont on a beaucoup parlé ici, dont l'objectif est de pacifier les négociations commerciales entre les agriculteurs et l'agroalimentaire, l'industrie et la grande distribution, en garantissant des prix minimaux et des marges bénéficiaires, cette loi Egalim qui n'est pas bien appliquée aujourd'hui, cette loi venait d'être adoptée à l'époque. La puissance de Lactalis lui vaut évidemment quelques solides inimitiés. C'est ainsi qu'en février 2012, un de ses principaux candidats, Sodial, avait été allé voir l'autorité de la concurrence et avait balancé en fait sur un cartel du yaourt dans lequel des entreprises s'étaient entendues pour fixer les prix, pour fausser la concurrence. Cartel du yaourt dans lequel Lactalis avait une place prépondérante. La sanction peut s'avérer très lourde quand l'autorité détecte une entente entre entreprises sur le dos des consommateurs. Voilà. Et en 2015, la décision est tombée. 192 millions d'euros d'amende pour 10 entreprises, dont 60 millions d'amende uniquement pour Lactalis. Visiblement, la sanction n'a pas été dissuasive, puisqu'en 2022, 4 entreprises laitières, dont encore Lactalis, dont Sodial, l'entreprise qui avait dénoncé quelques années plus tôt, marche sur la tête, ont reçu une visite inopinée des inspecteurs de l'autorité de la concurrence. Des documents ont été saisis, les disques durs des ordinateurs ont été aspirés et ces groupes sont soupçonnés d'une nouvelle entente dans la collecte du lait auprès des éleveurs. L'enquête est d'ailleurs toujours en cours. C'est pas beau. Le numéro 1 mondial du lait est sans doute l'une des rares entreprises françaises à se retrouver simultanément incriminé dans 3 procédures. Il y a l'enquête de l'autorité de la concurrence dont je viens de vous parler, mais ça n'est pas tout. Le fisc, le parquet national financier ont lancé leurs propres investigations. Les mois qui viennent risquent d'être agités pour le PDG de Lactalis, révélé par Libération, un redressement fiscal massif de près de 300 millions d'euros. Waouh ! Est en cours. Les agents des impôts ont mis en lumière un mécanisme d'évasion fiscale dans lequel une partie du bénéfice imposable en France aurait été en fait dirigée vers une filiale en Belgique et au Luxembourg, où les prélèvements obligatoires sont beaucoup plus doux. Voilà. Alors quelqu'un disait, oui mais attention, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Alors on va se pencher très rapidement, même si je ne vous ai pas mis de jaune fluo, sur la fortune personnelle du patron de Lactalis. Alors je vous ai trouvé ça quelque part. Je crois que j'ai... Où est-ce que je vous ai trouvé ça ? Je retourne sur l'article, j'ai l'impression que je ne vous ai pas mis,
je vous ai pas mis le papier dans son
Je vous ai pas mis le papier dans son intégralité. Vous avez une pleine page sur Emmanuel Beignet, voilà, qui est le patron de Lactalis. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure, oui, mais vous confondez tout, chiffre d'affaires, bénéfices. Ça se trouve, Lactalis fait pas trop de bénéfices. Le bénéfice, il sert à investir, dans le meilleur des cas, à verser des dividendes aux actionnaires aussi, et à assurer parfois la fortune de son patron. Alors, donc est-ce que l'entreprise est en difficulté? Est-ce que l'entreprise ne gagne pas d'argent? Auquel cas, effectivement, ce pauvre Emmanuel Beignet serait un peu à la rue. Alors, on en est où? La fortune personnelle, elle est où? Bon, on va trouver ça. Je crois qu'il est en ce papier. À la fin ou au début? Je vais vous trouver ça. Ok, classé au 10e rang des plus grandes fortunes françaises en 2023, ça a l'air d'aller. Avec un patrimoine professionnel, estimé par le magazine Challenge à 14 milliards d'euros. Voilà. Ça a l'air d'aller. Donc, manifestement, l'entreprise va bien. En tout cas, son patron a ce qu'il faut, quoi. Voilà. Il a un peu de quoi voir venir l'avenir, comme le dit Moulbit. Voilà. Donc c'est là, il est dans le top 10 des plus grandes fortunes françaises. C'est aussi peut-être aussi ce qui provoque la colère des agriculteurs, quoi. Certains qui gagnent quelques centaines d'euros par mois, quoi. Merci Venox pour le prime. 14 milliards. Bon, je fais un peu d'ironie, mais manifestement, c'est une entreprise qui... En fait, pourquoi on en parle actuellement? Parce qu'on est dans une crise du secteur agricole et les agriculteurs dénoncent, en fait, le fonctionnement de cette entreprise, quoi, qui paye mal, quoi. Voilà. Et puis, manifestement, qu'il y a des enquêtes sur le dos, évasion fiscale, donc entente illicite entre concurrents, voilà, quoi. Donc, il y a un petit souci Lactalis quand même. Enfin, en tout cas, c'est ce que semble dire Libération. De quoi je vous parle aussi ce matin? Ah, ben non, je suis retourné dans Libé. Des camions qui vont carburer électrique. Alors là, c'est un peu pas très intuitif. Les camions, avec le besoin d'autonomie des poids lourds pour livrer aux quatre coins de la France, sinon de l'Europe, par exemple, avec une masse embarquée hyper lourde. Des camions à l'électrique, vraiment? Alors c'est un petit peu étonnant comme ça, et pourtant c'est l'objet d'une étude dont parle le Parisien ce matin. L'avenir du poids lourd, du camion, serait l'électrique. Les camions aussi veulent carburer électrique. Comme la voiture, le poids lourd devra tôt ou tard dire adieu au moteur thermique. Bon, bah, ça en soi, c'est une bonne chose. Une association met en avant ce que la filière pourrait apporter à l'environnement. Let's go. Article d'Erwan Benezet, page 8 dans le Parisien. Qui nous explique qu'il y a un salon international du transport et de la logistique en ce moment à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, c'est jusqu'au 21 mars, donc c'est à cette occasion que le Parisien publie ça. Concernant les voitures, le calendrier réglementaire, il est très clair en Europe. La commercialisation des voitures, quand elles sont équipées d'un moteur thermique, essence ou diesel, ne sera plus autorisée à partir de 2035, hein, vous le savez. Merci Bubu pour l'abonnement offert à Youth Russian. Donc ça, c'est pour les voitures. Les poids lourds, en revanche, vont bénéficier d'une dérogation, mais pour combien de temps? La réglementation CO2-PL, PL poids lourd, impose déjà une réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre dès 2040 par rapport à 2019, donc c'est assez contraignant. Et pour éviter que le secteur ne se retrouve tôt ou tard devant un mur infranchissable, eh bien, mieux vaut prendre les devants dès maintenant. En gros, il va y avoir des obligations légales d'émissions de gaz à effet de serre qui font qu'il faut absolument que les entreprises du secteur anticipent. Alors anticipent pour aller vers quoi? Électrique? Hydrogène? On va voir. Dans un premier temps, et c'est ce que reflétaient beaucoup des articles qu'on a lus ces dernières années sur cette chaîne, dans un premier temps, les pouvoirs publics voulaient voir coexister trois technologies. Hydrogène, biogaz et le 100% électrique. Sauf que les choses manifestement ont changé, me dit le Parisien. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz a du plomb dans l'aile, Tu m'étonnes. L'hydrogène n'est pas jugé assez mature techniquement, technologiquement, à court terme en tout cas. Les espoirs se sont donc reportés sur l'électrique qui coche beaucoup de cases. La technologie en plein essor pour les voitures pose néanmoins de nombreuses questions. 50% des camions sur le marché seront électriques en 2030 selon les prévisions. Est-ce que c'est vraiment réaliste ? La part aujourd'hui n'est que de 0,1%, avec un nombre de modèles disponibles très réduit. Autre point, la recharge. Selon l'association qui s'occupe de tout ça, la mise en place de 45 000 à 60 000 points de recharge serait nécessaire dans tout le pays d'ici à 2025. Ça va être compliqué. Autre frein, le prix de ces camions électriques. Aujourd'hui, 3 fois plus élevé qu'un modèle thermique équivalent, mais un prix qui pourrait peut-être être amorti par des coûts d'exploitation plus faibles pour l'énergie et pour la maintenance. À condition que les prix de l'électricité n'explosent pas, hein, l'évolution du prix de l'électricité sera un des facteurs déterminants de l'ensemble de l'équation économique du camion électrique. Vous en pensez quoi ? Oh, j'ai envie d'un café. Donc les gigatrucks de 60 tonnes et 25 mètres vont aussi rouler électrique. On en parlait la semaine dernière. Nous dit Didi, oui, des terrains de tennis électriques, c'est du grand n'importe quoi. Déjà que remplir le réservoir d'un poids lourd prend 10 minutes, je me demande combien de temps il faudra pour recharger la batterie d'un camion, rigole Jotagro. Il n'y a déjà pas d'assez de bornes pour les voitures. Alors vu le trafic des camions en France, c'est impossible qu'ils imposent ça. Voilà. Dietler X, qui s'il semble connaître le sujet, nous dit les technologies actuelles, merci Draxou TV, participation pour les 14 milliards. Les technologies actuelles ne permettent pas aux camions de rouler à l'électricité. La plupart d'entre eux traversent la France en une journée, et ça plusieurs fois par semaine, sans parler du rechargement nécessaire qui serait long à attendre, tant dont ne disposent pas les entreprises de transport. Les temps de conduite étant très réglementés, je vois mal le processus se mettre en place. L'hydrogène n'est pas assez évolué non plus, il n'y a qu'à voir l'entreprise Opium. Intéressant ça. J'en doute, pose la question, mais ces camions électriques seront limités à combien de gigaoctets ? Très bonne question. Merci Yugi pour le 4e mois. Mougi, je vais super bien, merci beaucoup. Najat, Valo, Belkacem et les 3 gigas d'Internet, il fait tout, on en a parlé au début de ce stream. Tu l'as en replay, mon ami. Je ne me reconnais pas, me dit Degrelox, c'est trop gentil. J'ai le choix entre plusieurs streams de jeux vidéo, et Dieu sait s'il y a des belles choses sur Twitch, et j'écoute un mec parler de l'info. N'importe quoi, Degrelox. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne te reconnais plus. Mais merci d'être là. Il y a le poids des batteries aussi, dont l'article ne parle pas. C'est Moot qui en parle dans le chat. Pour un camion, ça peut peser plusieurs tonnes, hein, les batteries, donc ça rajoute de la consommation aussi. Combien de kilos de minéraux pour une batterie de camion, demande l'Alterne TV aussi. Hein. Pardon, je suis un petit peu rhumé. Peut-être mettre du chauffage, tiens. Un peu froid ce matin. J'ai pas assez dormi. Alors, Draxou TV est peut-être un peu plus optimiste. Moi, je trouve que ça critique beaucoup l'électrique, mais cette technologie ne cesse d'évoluer. Oui, aujourd'hui, ça peut être dur, mais de jour en jour, ça charge de plus en plus vite avec de nouveaux systèmes, de nouvelles techniques. Le démarrage est difficile, mais la finalité peut être bonne. Magic Monkey, ce soir du jeu vidéo. Là, ce matin, on est sur l'actu. Ouais, ok. L'éthanol, ils n'en parlent pas ? Bah non, qui n'est mal à vivre ? Ils n'en parlent pas dans l'article. Ils n'en parlent pas. Ah, par contre, on va parler de sucre. On va parler de sucre parce qu'on a un vrai problème de santé publique autour du sucre.
Attendez, il y a un... Hop, je regarde un truc dans le chat. Ok. Un petit élément du...
Ouais, le sucre, ça va pas du tout. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Eh bien non, justement, on en mange trop du sucre. Industrie alimentaire, c'est la une du Parisien ce matin. Du sucre à toutes les sauces. Alors, il y a une petite blague dans le titre du Parisien, parce que dans les sauces de pâte notamment, eh bien c'est gavé de sucre, par exemple. Ouais, dans le salé en France, il y a plein de sucre, quoi. Vous avez la ref, vous avez la ref. La crêpe Gigi, sinon il y a la crêpe Gigi avec des pétales de rose. Voilà. Il se cache dans pratiquement tous les produits transformés. Une enquête inédite par son ampleur. Vous avez une nouvelle enquête là-dessus. Pointe cette dérive néfaste pour la santé. Il y a trop de sucre. Cachez ce sucre que je ne saurais voir. D'après une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire, le sucre est présent partout dans les produits transformés, y compris les produits salés. Comme les pizzas, il y a du sucre. Dans les sauces pour les pâtes, il y a du sucre. Dans la charcuterie, baby, il y a du sucre. Dans mon saucisson, il y a du sucre. Enfin non, bref, non. Vous m'avez compris. Fauve-touille, merci beaucoup pour le 28e mois d'abonnement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis 10 ans, bonne nouvelle quand même, il y en a moins. Il y a beaucoup de sucre. Ouais, je sais, c'était bizarre, la phrase était bizarre. Désolé. Il y a beaucoup de sucre dans le produit transformé. Il y en a quand même moins qu'avant. Ah, quelqu'un, souvent vous me dites ça, mais t'as pas une bonne nouvelle? T'as pas une bonne nouvelle? Ouais. Il y a beaucoup de sucre dans notre alimentation transformée, mais il y en a moins qu'avant, puisque... Les pouvoirs publics dans un pays comme la France sont intervenus et ont mis des règles, ont fait pression sur les industriels. Donc voilà, on critique beaucoup les pouvoirs publics, mais parfois il y a des choses qui se font pour encadrer le marché, voilà, et pour aller vers du mieux. On verra ça à la fin de l'article. Dans le beurre salé, il y a du sucre? Dans le beurre salé, il y a du sucre, je ne sais pas. Mais il y a des aliments salés où il y a beaucoup de sucre. Et arrêtez avec les Pimps. Arrêtez avec les Pimps. Les Pimps orange, les Pimps poire, là, vous, hein, il y en a marre. Il y en a marre des Pimps. Faites ce que vous voulez, vous pouvez manger des Pimps. Vous pouvez manger des figolus, vous pouvez manger des chocobéen, des chamonix, les Mikado, des Daily Shock, ce que vous voulez. Ouais. Ah, ça y est, le débat sur les Pimps s'est lancé. Ah, les Pimps. Des dinosaures. Oh, les granolas, c'est trop bon. Il y a un petit peu de sel dans les granolas. Les figolus. Mais bien sûr. Daily Shock, c'est trop sucré, je trouve. Diesel. Il y a trop de sucre. J'aime pas. Granola, il y a un petit côté, tout petit, une petite pointe de sel. C'est bon, les granolas. Les Pimps framboises, non, Ticos. Non, non, ça, non. Ça, non. Pas trop, c'est un peu sucré, les Pimps. Les petits écoliers. Mais bien sûr. Ouais. Non, sur les biscuits Kinder Bueno, on va pas parler des bars machin. Hein? Les palais bretons, les thés de lu. Hein? Chamonix, c'est solide. Ah bah c'est Vico, Chamonix, c'est solide. Hein? T'en manges deux, t'es bien. Hein? T'es bien. Les gigachas mangent des petits écoliers, me dit Wazou. Les spéculos, ah c'est sucré ça aussi. Hein? Les sugus, ça vous connaissez pas, dit Anatem. Je ne sais pas en quel pays tu es, Anatim, mais les sugus, je ne connais pas. Mais comme je suis curieux, je vais aller voir les sugus pour voir si c'est un vrai gâteau ou c'est une cochonceté. Ah, sugus, S-U-G-U-S. Qu'est-ce que c'est encore? C'est suisse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bonbons, ça. Mais on parle de gâteau sec. Tu ne suis pas. Anatim, tu ne suis pas. Attends, je vous montre. Regardez. C'est sugus. C'est des bonbons, ça. Bonbons, fruits. Enfin, Anatim. Tu suis pas. Tu n'es pas concentré. Oh. Merci, Fauve-touille. Oh, c'est fou, ça. Hein? Alors, on continue. Sur le sucre. C'est parti. Article de Frédéric Mouchon. Saccharose, je vous mets l'article. Saccharose. sirop de glucose, fructose, aspartame, dextrose, sirop de mélasse, concentré de jus de fruits. Vous cherchez un synonyme du mot sucre, c'est simple. Ouvrez les placards, lisez les emballages de vos biscuits, plats préparés, confitures, sauces, boissons et même charcuterie. Eh bien, le sucre est partout. Le sucre est partout, y compris dans des produits qu'on ne soupçonne pas, comme dans les saucisses, il y a du sucre, dans les pizzas, il y a du sucre, dans les conserves de petits pois. Eh bien, ils mettent du sucre. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'enquête publiée aujourd'hui, mesdames et messieurs, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, qui a passé en revue la liste des ingrédients de près de 40 000 produits présents sur le marché. C'est une première en Europe, sacrée étude quand même. L'étude montre que la majorité des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Et ce, même dans les aliments salés, alors moi j'ai appris un truc là, où les industriels s'en servent par exemple pour améliorer la texture, pour améliorer le goût. Dans les ratatouilles en boîte, il y a du sucre pour le, rendre le truc moins acide. Voilà. Dans le saucisson, il y a du sucre. Dans le saucisson, il y a du sucre. Mais où va notre civilisation ? Dans le saucisson, on met du sucre, hein, pour une meilleure conservation. Mais cette civilisation est en train de s'éteindre. Les amis, ça n'est pas possible. C'est une... Exactement. Hein. Incroyable. Eh ouais, c'est fou. Eh ouais. Continuons. Les chips, c'est l'incarnation du salé, les chips. C'est du sel, 100% du sel et de la patate. Non. Les chips, les gars. Il y a du sucre. Qui pourrait imaginer dans un bol de chips, un petit bol de chips, les gars, un bol de chips, il y a l'équivalent de 8 morceaux de sucre dans un bol de chips. Mais, dans un bol de chips, il y a 8 morceaux de sucre. Mais c'est... On vit dans une saucisse. Sacadale, dans la saucisse, il y a quoi ? Il y a du sucre. Hein ? Dans une part de pizza, il y a 5 morceaux de sucre. Imagine ? C'est incroyable. Cette utilisation massive de poudre blanche, sucre, hein, peut avoir des effets délétères sur notre santé. C'est pour ça qu'on en parle, surtout si on en abuse. Le sucre active la zone en effet de récompense du cerveau, décrypte une spécialiste des risques nutritionnels. C'est comme c'est agréable, on a envie de recommencer. Hein, un peu comme une drogue, dit le Parisien. On n'en est pas loin, dit cette spécialiste de santé. Pour éviter l'overdose, les pouvoirs publics ont mis la pression sur les industriels. Bonne nouvelle, hein, il y a du sucre dans notre alimentation, mais il y en a moins qu'avant. Et ce combat a fini par payer. Voilà. Et parfois, dans l'activité du normatif, du législateur, de l'État, pour contraindre, encadrer, accompagner un peu le marché, parfois il y a des bonnes choses. L'ANSES, par exemple, a observé une baisse de l'utilisation des ingrédients sucrants au cours des 10 dernières années. Voilà. Les plus fortes diminutions concernant les produits salés, justement. Si on n'a pas observé de baisse au niveau des biscuits, en revanche, les biscuits sont toujours aussi sucrés, là, vos PIMS, là, dont vous parliez tout à l'heure, c'est suc. En revanche, il y a beaucoup moins de sucre dans les céréales du petit-déj. Les céréales du petit-déj sont moins sucrées qu'avant, en France. Dans les thés glacés, moins de sucre. Dans les boissons aux fruits, moins de sucre. Dans les boissons énergisantes, moins de sucre. Voilà. Un accord collectif a été instauré entre les principaux industriels du secteur et les pouvoirs publics pour diminuer de 5% le taux moyen de sucre. Par ailleurs, depuis 2012, les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants font l'objet d'une taxe qui est devenue proportionnelle à la teneur en sucre ajouté. Vous mettez du sucre dans vos trucs, eh bien vous allez être taxé. Et plus vous allez mettre du sucre, plus vous allez être taxé. Il s'agit de protéger le consommateur. Voilà. Ça, c'est un langage que certaines entreprises, certains groupes qui ne pensent qu'à la thune, peuvent comprendre. Alors attends, si j'enlève du sucre, si je m'ajoute du sucre, je vais être taxé. Je vais peut-être un petit peu enlever de sucre. Quand même. Ah, ouais. Trouvez-moi une recette avec un peu moins de sucre. Ah oui, mais c'est plus facile, c'est meilleur. L'amende, c'est pas toi qui vas la payer, chouchou. Voilà. La preuve, selon l'ANSES, qu'une politique publique incitative peut porter ses fruits. Voilà, les fruits, il y a du fructose. Les géants de l'agroalimentaire l'ont bien compris. Et ça surfe maintenant sur des produits moins glucosés, plus naturels. Mais l'ANSES ne crie pas victoire.
Pour autant, car les étiquettes peuvent être trompeuses, si on observe sur certains produits, oui, une diminution du nombre de composants donnant un goût sucré, les industriels ont pu compenser parfois en augmentant la quantité d'un autre ingrédient sucrant. Et gare aux faux amis, quand vous donnez du nectar de fruits ou un smoothie à un enfant, vous pouvez avoir l'impression de lui donner des vitamines, des bonnes choses pour lui, mais c'est beaucoup de sucre ajouté aussi. Est-ce qu'on peut envoyer un max de force, là maintenant tout de suite, à Elange Low, Elange Low, qui nous regarde depuis l'hôpital et qui est dans son deuxième cycle de chimio à Elange Low, on t'envoie plein de force. Voilà, et ça va bien se passer. Force à toi. Merci beaucoup d'être avec nous. Ouais, je sais que le chat a t'envoyé plein de petits messages de soutien. Sean Shui, merci pour le prêt. Vous êtes cool. Vous êtes super cool. Bravo à vous. Donc attention au sucre ajouté, voilà, et où les enfants, plutôt que leur filer des jus d'orange, donnez-leur une orange, disent les nutritionnistes. Vous mettez les larmes, hein, tellement vous êtes gentils, vous. Hein. Merci à vous. Bon, les risques pour la santé du sucre, pour ceux qui ne sont pas convaincus. Let's go. Le sucre rend addict, rappelle d'emblée Philippe Frogel, qui est diabétologue et endocrinologue au CHU de Lille. Mais surtout, en absorber trop au quotidien, pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, mangent trop de sucre, n'est pas sans risque. De façon générale, consommer trop de sucre, c'est mauvais pour la santé, c'est un fait désormais bien documenté. Il y a deux chercheuses de l'INSERM qui ont bossé là-dessus. Déjà la dentition, hein, les dents abîmées, la modification de la flore intestinale, des maladies graves plus fréquentes. Par exemple, les gens qui boivent des sodas ont un risque plus important de faire un diabète. Cela vaut pour l'obésité, les maladies cardiovasculaires, voire pour certaines tumeurs. On n'est pas sûr, mais on pense que la consommation de boissons sucrées s'est révélée être associée à un risque accru de cancer. Voilà. Tout dépend de la quantité ingurgitée, bien sûr. Hein. Il faut arrêter de diaboliser le sucre en tant que tel, et du sucre naturel n'aura pas forcément le même impact qu'un glucose ajouté dans un produit salé ultra transformé. Ce qui est dramatique dans les produits tout préparés, c'est qu'ils comportent souvent à la fois beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Boubou, tu régales, merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Ils sont donc doublement dangereux, ces produits salés et sucrés, car avaler du sel augmente aussi le risque de maladies, pathologies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Bon, finalement, ouais. Donc, attention, notamment. On sait, hein, c'est surtout les produits très transformés hein, qui sont vraiment pas super pour la santé, quoi. Voilà. Du coup, j'ai ouvert un paquet de gâteaux avec mon café, me dit Anatim qui a tout compris. Voilà, ça y est, le concours de l'horoscope est parti dans le chat puisque vous avez vu la page de l'horoscope. De temps en temps, quand je suis de bonne humeur, on fait l'horoscope. Ça n'est pas très scientifique l'horoscope, on est d'accord. Je ne crois pas que ce soit vrai, je ne crois pas que ça marche. Mais, ça nous fait rire. Le jeu ici, c'est que le premier, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat quand je lance le concours, je lui lis son signe. Évidemment, là, tout le monde est parti, donc ça ne marche pas. Tout le monde a joué. Donc, je vais vous poser une question sur l'actualité. Et il me faut, dans votre réponse, votre signe astrologique et la bonne réponse à l'actualité. OK ? C'est comme ça qu'on va jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle question sur l'actu ? Vous êtes prêts ? Qu'est-ce que je vais vous demander ? Un truc sympa sur l'actu. Attendez, j'ai une idée. Alors, il me faut l'orthographe précise, hein, faut pas se tromper. Attention. Donc, le signe et la réponse. 1, 2, 3. C'est parti. À côté de quel célèbre footballeur s'affiche Amine dans son dernier clip diffusé sur les réseaux sociaux pour annoncer le King's World Cup. C'est parti. Bon bah c'était facile celle-là, mais bon. Oh là, vous êtes des centaines. Oh, c'est incroyable le chat. Alors avec les modos, on va regarder. Sarah m'a mis quelqu'un, m'a épinglé Sagittaire Neymar. Je vérifie. Ah, j'ai un... Ouais, si, t'as raison. Sarah, bravo, tu as l'œil. C'est Sparamoul. joli pseudo, qui est Sagittaire et qui m'a donné Neymar. Voilà. Balance Neymar était pas loin. Sagittaire Neymar sur la troisième marche du podium. Donc Sagittaire vraiment très réactif ce matin. Gémeaux Neymar, Poisson Neymar, Gémeaux Neymar et Gémeaux Bravo. Balance Beignet. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est Sagittaire. Bravo Sarah. Tu as l'œil et le bon. Ok, let's go. Donc c'est Sagittaire ce matin. Sagittaire, est-ce que vous avez un bon horoscope ? Cœur, plus important. Vous évoluerez dans une ambiance harmonieuse. Cool. Sagittaire, cœur, ça va. Si vous êtes bons yeux, vous pouvez tous lire votre signe. Allez, je zoome un petit peu parce que je suis trop gentil. Réussite, des amis peuvent vous aider à obtenir quelques succès, mais les résultats concrets se font attendre. Traduisez, vos amis sont gentils. Vous avez des amis gentils. Ils ne sont pas super efficaces. Mais ils sont gentils. Forme, bonne résistance. Ok, cool. Je vais lire mon signe. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Taureau, cœur, vous serez heureux en amour. Cool. Réussite, les démarches que vous entreprendrez devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelques temps. Ok. Cool. Forme, sommeil perturbé. Ok, je dors 3 heures par nuit, maximum. Je vous l'ai toujours dit. L'horoscope, c'est scientifique. L'horoscope, ça dit la vérité. La preuve. Allez. Démonstration, quoi. Taureau, sommeil perturbé. Voilà. Et je suis à l'eau sur le sommeil, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est scientifique. Voilà. Hein. Quelle heure il est ? 11h12. C'est un mini-stream ce matin, parce que j'ai plein de rendez-vous là ce matin. Dans une demi-heure, j'ai le premier de 4 rendez-vous de travail. Et une demi-heure, c'est quoi ? Une demi-heure, c'est quoi ? Une demi-heure, ça n'est pas la durée d'une ranked sur Valorant. Non. Ce n'est pas la durée d'une unranked sur Valo. Mais ce peut être la durée d'un deathmatch. Voilà. Hein ? Voilà. D'un petit deathmatch. Allez, on va finir par ça. Oh, je n'actualise pas. Hein. On reste dans la revue de presse. On ne change pas la thématique. Bougez pas.
Sachant que ce soir, je suis pas sûr de faire du Valo. Peut-être que ce soir, on fera autre chose. Suspense intolérable. Ok. Donc, on se fait un mini deathmatch. Avant mon prochain rendez-vous. Ok. Ah oui, le mardi soir, je mange avec Hélène. Ah oui. En plus, on va lancer tard ce soir le gaming. Le mardi soir, je dîne avec mon amoureuse.
Ah ouais, c'est vrai.
Donc on va jouer tard ce soir. Ok, bon. Alors on va jouer...
Et si on faisait plutôt une vélocité ? Vélocité ou deathmatch ?
Pour une demi-heure ? Les amis ? Qu'est-ce que vous choisissez ?
Hein ? Vélo ?
Qu'est-ce qui est mieux ?
Deathmatch ?
Oh, j'ai bien envie de faire une vélocité, moi. Ah, une petite vélocité. Go. Même pas non, pour l'entraînement. C'est pour le plaisir, là. C'est pour le plaisir. Hein Pellacure, Samuel, j'ai dit à ma grand-mère que je regardais le stream, son premier pot.
Parti trouvé.
C'est drôle. Et nous, ma casquette de gamer. Bon, j'ai installé Crysis hein, parce qu'on aime la piquer, j'en ai marre. Ouais, c'est bon quoi. Putain, je me suis fait. Hier, j'ai joué à Sova là, 2 fois. Parce que je me faisais sans arrêt piquer Crysis. Ça va. Je suis en colère ce matin. Donc, une petite vélo. Et puis, puis après, comme ça, j'ai mes rendez-vous. 11h. Ouais, on a juste le temps d'une vélocité. Juste le temps. Let's go. Et on finit là-dessus. On dirait Sly qui met sa casquette à l'envers dans ses bras de fer dans Over the Top, maudit Olivier. Les jeunes, vous n'avez pas la ref. Over the Top avec Stallone, j'ai la ref. Casquette. Tout est dans le poignet.
Ouais, ma jolie, c'est nous là-bas.
Go.
N'y réfléchis pas.
Go, 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 go. Gadgetto, go, go. Où est-ce qu'on peut aller? Ok. Ok, il n'y a personne en A. Ouais, on sent que la vélocité, c'est A quand même. Non? Non, personne en A. Ok, c'est full B. Hein. Passer par le mid.
Spike à terre au B.
C'est classique, hein. Il y a du monde, ça fait le tour. Hein.
Dernier joueur.
Oh merde! Ah merde, je pensais qu'ils avaient fait le travail de l'autre côté, qu'ils avaient tué tout le monde. J'ai pas surveillé assez les kills. Ok, d'accord. Ok, ok. Je pensais être malin. Et on a perdu un point. Ok, ok. C'est pas grave. Un peu trop agressif, ouais, c'est vrai. Un peu de mid. Attends, j'ai paniqué là. C'était en face, les mecs, ils ont quoi là en face? Oh là là! Oh putain! Ah ouais, mais ils sont super agressifs en face. Ça push.
Dernier joueur en vie.
Ouh, 5-1. Ouh là là, bah disons, heureusement que c'est pas une roquette. Hein. Donc le petit mur de glace là-haut, c'est la même chose que la première fois.
Ok, ok.
Ouais, j'ai vu.
Je vais jouer le jeu.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller calmer tout le monde là. Ok, let's go.
Pas de prisonniers.
Du B.
Ennemi en B.
Putain, ils sont encore en haut, je me suis refait avoir. je vais chercher le mur, ils sont encore sur le mur et je me refais tuer. Oh, c'est drôle, c'est une blague. C'est une blague. Bon, bah, on va pouvoir lancer plusieurs rythmes là, c'est ça qui est cool. Non, on va pas changer le titre, beaucoup de titres, c'est un mini. C'est un mini valo. Attends, il est où le mur? Il le met où le mur? Il est à droite là? C'est ça?
Ombre en mouvement. Je recharge.
Ton chaud, hein. Oh putain. Eh ben c'est chaud, hein. Oh là là là, voilà. Ça, c'est une partie qu'on va enseigner dans les cours, dans les écoles de Valorant, pour dire tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ça, c'est beau, ça.
Spike à terre.
Voyez, monstre en liberté.
Droite. Tu l'as entendu. D'ailleurs, en fait, ils ont pas de casque, les gars. Ouais. Ouais.
Changement de côté. Point gagnant.
Ça va être chaud.
Dès qu'on tue l'un d'eux, on lance
l'assaut. Allez, go.
Compris ?
Oui, je cache la map, ouais. Les habitués vont t'expliquer pourquoi. Merci Opto2A.
Je recharge.
Et après, on va faire un petit raid.
Je recharge.
J'ai toujours ce que je veux.
Allez, go, on y va.
Leur vision diminue.
Grenade.
C'est sûr.
Ennemi mort. J'ai le spike.
Ils arrivent à droite. Oh putain, les boulets, on y va. Eh merde.
Suivant. J'ai le spike.
Et merde.
Victoire des défenseurs.
Il fallait rotate. Ouais, ouais, il fallait rotate. Si, t'as raison en vrai. Bon, les amis, c'était juste pour vous faire rire. Voilà. Je vais me préparer pour mon rendez-vous. Quatre rendez-vous. Voilà, heureusement que c'était pas une ranquette. 4 rendez-vous là, sympa, que pour développer des projets sur Twitch. Voilà, hop. Et on se retrouve ce soir pour du gaming. Alors assez tard encore, parce que le mardi soir c'est le dîner avec mon amoureuse. Alors, je pense pas lancer avant 22h30 comme hier soir, quoi. Les amis, on va faire un raid maintenant. Voilà, on va aller voir s'il y a des amis qui sont live. Voilà, je vous remercie encore pour ce matin. C'était cool de parcourir l'actualité avec vous. Merci les modos, vous êtes trop gentils. Merci MMG. il me fait rire la maquine, il dit des bêtises. Qui est en live? Qui est en live? Mais qu'est-ce que... J'arrive à la fin. Mais t'inquiète, il y a le replay. Qui est en live? Ouais. Oh, cool ça. Ouais, ok. Cool, ouais. J'ai déjà trouvé une petite destination qui me plaît bien. Merci Nicomas pour le soutien. Peut-être autre chose que du Valo, soit on verra bien. C'est la surprise. Merci Torpedo. Ouais. Attendez, hop. Je regarde dans vos propositions. Ok, cool. Ouais, c'est pas... Tu es amoureux, mon Samu. Je suis très amoureux de mon épouse. Ouais. Salut Marie Bouchy, merci pour le message à l'instant que je vois. Tiens, alors je vois des noms de chaînes que je ne connais pas et ça m'intéresse beaucoup parce que on peut soutenir les amis, puis on peut aussi soutenir des créateurs de contenu qu'on ne connaît pas. Et notamment ceux qui n'ont pas encore de grosses communautés. C'est bien de les soutenir. Donc je vois plein de propositions sympas. Le replay sur Twitch, le lieu alone, ouais, pour les abonnés. Et sur YouTube, très vite aussi, si tu ne l'es pas. Ok, bon écoutez, je vais rester sur ma première idée. Ouais, c'est parti. Voilà. Ok, on y va les amis. Je vous emmène au Japon. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, qui est tenue par un Français, qui vit au Japon, qui fait beaucoup de streams IRL au Japon. Manifestement, c'est le soir, c'est la nuit au Japon. Il y a Citron Violet qui est en raid, voilà, dernier jour à Hiroshima, jour 9. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vient souvent me voir, qui me fait souvent de très jolis raids d'ailleurs. Donc allons saluer l'ami Citron Violet, qui est donc un Français qui vit au Japon et qui est en plein stream IRL. Une petite balade là. Le raid, pardon, quelques secondes. Soyez heureux, passez une belle journée, prenez soin de vous. Pardon pour cette revue de presse assez rapide ce matin puisque j'avais beaucoup de rendez-vous là. Et on se retrouve ce soir, mais assez tard, après mon dîner avec Hélène. Le raid, pardon, 5 secondes. Prenez soin de vous. Et à ce soir les amis. Merci pour ce matin. Ciao ciao. Mon fils a 12 jours sa première rime. C'est trop mignon. Merci. Let's go. À ce soir les amis. Merci beaucoup pour ce matin. Bye.
Tu regardes.
Je vais t'en regarder juste, je vais t'en montrer juste.
Vas-y. Je regarde l'original et le remake Brotherhood. Merci beaucoup Steph pour le follow. Merci à Dieu. Attends. Qu'est-ce qui vient de se passer?
Hein?
Red.
Quoi?
Samuel Etienne? Mais non!
Samuel Etienne.